5h sur Europe 1.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une ce matin, retour à la normale dans les stations-service dans le courant de la semaine prochaine. C'est le scénario optimiste d'Emmanuel Macron. Dans les faits, la CGT refuse les propositions de Total et la grève continue. Si les électriciens s'y mettaient à leur tour, débrayage dans les centrales nucléaires. Déjà 4 d'entre elles sont touchées. Une 5e ce matin, la plus puissante d'Europe de l'Ouest, celle de Gravelines dans le Nord. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial Europe 1. Et puis, 70% des animaux ont disparu en 50 ans. Constat alarmant d'un rapport WWF publié ce matin. 5 raisons principales identifiées, elles sont toutes liées à l'homme. On vous dit tout dans ce journal.
Un
journal présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. La mobilisation dans les raffineries va-t-elle gagner les autres secteurs? La CGT appelle à une grève nationale interprofessionnelle pour les salaires mardi prochain, le 18 octobre, alors que son secrétaire général Philippe Martinez doit déposer tout à l'heure un recours en référé contre les réquisitions lancées hier chez Esso ExxonMobil pour pouvoir ravitailler les stations-service franciliennes à sec. Chez Total, la situation reste au point mort ce matin, ou alors elle s'empire. Force ouvrière se joint au mouvement. Les grévistes refusent de débloquer les livraisons. C'est pourtant une condition à l'ouverture de négociations salariales, prévient la direction. Bref, rien ne bouge, surtout dans les stations-service où il faut parfois attendre 3 heures pour faire le plein. Mais l'exécutif n'interviendra pas dans les négociations. C'est ce qu'a fait savoir Emmanuel Macron hier soir, invité de France 2. Jacques Serret, le président, veut respecter le dialogue social.
Oui, si Emmanuel Macron espère un retour à la normale la semaine prochaine...
Il sera dans le courant de la semaine qui vient.
Il ne veut pas porter le chapeau des difficultés du moment.
On ne peut pas se substituer à tout le monde, c'est pas vrai.
Renvoyant la balle aux dirigeants de ces entreprises et aux syndicats des salariés.
Que la CGT permette au pays de fonctionner. Je veux bien que nous soyons dans un pays où on pense que tout dépend du président de la République et du gouvernement.
Ça ne dépend pas de vous, ce qui
Mais
se passe.
Nous ne sommes pas, je le dis vraiment, au moment où nous avons la guerre et cette bouscule complète, ce bouleversement du monde. Chacun doit être, si je puis dire, à sa place et prendre toutes ses responsabilités.
Quant aux critiques sur le manque d'anticipation, sur le retard à l'allumage des réquisitions, Emmanuel Macron tente de se défendre en mettant en avant sa volonté de respecter le dialogue social.
C'est juste qu'on aurait pu faire les réquisitions avant.
Mais pardon, non. Non. Parce que c'est trop facile. Parce que vous m'auriez dit à ce moment-là, mais pourquoi vous empêchez le dialogue social de se faire? C'est au dialogue social. Nous y croyons et nous le voulons.
Une espérance présidentielle qui semble pourtant dénuée d'illusions.
Si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons.
Et en attendant que cette nouvelle menace soit mise à exécution, les automobilistes peuvent attendre.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Les prochains personnels réquisitionnés seront les grévistes du dépôt de Flandre de Total Énergie près de Dunkerque. C'est ce qu'assure Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
Dans l'ombre de la grève dans le secteur du carburant Alban, celle du nucléaire.
Oui, là aussi les salariés débrayent pour demander des augmentations de salaire. Grève à Tricastin dans la Drôme, Crua en Ardèche, Bugey dans l'Ain et Cattenom en Moselle. Aujourd'hui, la centrale de Gravelines dans le Nord, la plus puissante d'Europe de l'Ouest, se joint au mouvement et gare aux coupures. Le reportage de notre envoyé spécial Europe 1 à Gravelines, Lionel Gougelot.
C'est une grève reconductible et illimitée qui risque de retarder la maintenance d'un des 6 réacteurs de la centrale, le réacteur numéro 4. L'opération était prévue à partir de demain pour une durée de 3 mois, mais si les négociations salariales n'aboutissent pas, si la grève perdure, le retard pris dans la maintenance de cette tranche pourrait faire qu'elle ne soit pas relancée à temps, reconnectée au réseau en fin d'année, au début de l'hiver, au moment où les besoins en électricité seront les plus importants. C'est la menace que font donc planer les grévistes. Franck Redondo est le représentant force ouvrière du CSE de la centrale de Gravelines.
Un arrêt de tranche 4 qui est prévu d'être remis sur le réseau entre Noël et Nouvel An. S'il n'y a pas de point de chute, il va manquer de courant sur le réseau français en début d'année prochaine. Après, il faut rassurer les concitoyens. Les citoyens ne seront jamais délestés. Jamais. Les hôpitaux, jamais. Il ne faut pas faire peur aux gens. On ne fera pas peur aux gens. Peut-être qu'il y a des grandes entreprises du CAC 40 qui seront délestées, certes, mais le citoyen, lui, ne risque rien.
Mais selon le syndicaliste, dans un contexte de pénurie énergétique, le gouvernement et EDF se passeraient bien de ces difficultés, même s'il est impossible de prévoir l'impact réel de ce mouvement. La menace semble avoir été entendue par la direction d'EDF, qui a avancé les négociations salariales prévues en novembre à la semaine prochaine. Gravelines, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et j'ajoute que le projet de loi visant à faciliter la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires sera présenté en Conseil des ministres début novembre. Annonce hier d'Elisabeth Borne, la première ministre. Objectif, mettre le premier en service à l'horizon 2035.
Venons-en à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron appelle Vladimir Poutine à revenir à la table des négociations.
Il doit aussi cesser cette guerre et respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, dit le président. Résultat, pour que Kiev puisse se défendre, la France livrera des systèmes et des missiles anti-aériens et 6 canons César supplémentaires avec le Danemark. Déclaration quelques heures seulement après la publication d'une vidéo par le ministère de la Défense ukrainien sur Twitter. Je vous invite à aller la voir, elle a beaucoup fait parler.
Ce jeudi sera marqué par un nouvel épisode de la saga judiciaire Omar Radad.
Oui, hein, l'affaire dure depuis maintenant 28 ans que le jardinier marocain a été condamné pour le meurtre de Ghislaine Maréchal, dont il se dit innocent. Eh bien, c'est aujourd'hui qu'Omar Radad sera fixé sur les suites de sa requête en révision de son procès déposé l'année dernière. Affaire passionnante sur laquelle on reviendra à 8h45 avec Christophe Ondelat, notre expert européen.
Il est 5h06, près de 70% des animaux sauvages d'une population observée entre 70 et 2018 ont disparu, Alban.
Constat hallucinant du rapport publié ce matin, Planète Vivante par WWF, document publié tous les 2 ans. Il nous apprend donc que chaque groupe d'espèces dans une zone géographique donnée a perdu plus des 2/3 de ses effectifs. C'est alarmant, d'autant plus que les raisons de ces disparitions sont multiples. Louise Salé.
Oui, le WWF en a identifié 5. Tout d'abord, l'usage des terres, la façon dont l'homme s'approprie la nature via la déforestation, l'agriculture intensive ou encore l'extension urbaine. Ensuite, deuxième cause, la chasse, le braconnage, la surpêche. Puis troisième cause, le réchauffement climatique, un facteur de plus en plus important en passe de devenir le principal. Arnaud Goffier est directeur des programmes au WWF.
Les effets provoqués sur les vertébrés, ça peut être le réchauffement climatique qui induit une destruction de leur milieu via des feux de forêt, comme on l'a vu cet été. Ça peut être des assèchements massifs. Certaines zones humides, le marais Poitevin en France, connaissent des sécheresses qui sont dramatiques tous les étés maintenant, pour lesquelles les amphibiens, les poissons ne survivent pas. Donc c'est ce genre de choses. L'apparition de nouvelles maladies aussi.
Deux autres causes, enfin, provoquent également le déclin des vertébrés, la pollution et les espèces invasives, ces animaux introduits dans de nouvelles régions par l'homme qui se déplace. L'Amérique du Sud est le continent le plus touché par cette chute du nombre d'animaux sauvages. En Guyane, 95% des tortues luttes ont disparu en 20 ans en raison de prises de pêche accidentelles.
Louise Salé.
On est au-delà de l'urgence, c'est ce que nous dira tout à l'heure Isabelle Autissier, la présidente d'honneur du WWF France sera mon invitée à 5h45. Tiens, que diriez-vous d'installer un hublot chez vous ou alors une nouvelle lampe, une lampe extraite du mythique A380?
Vous savez, hein, l'A380, c'est le gros avion d'Airbus dont la production a été arrêtée l'année dernière. Eh bien, à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours, à Toulouse, vous pouvez vous en offrir un morceau dans une vente aux enchères. 500 lots proposés. Embarquement immédiat avec notre correspondant européen Benjamin Péter.
Ce sont des hublots, des morceaux de carlingue, le bar complet de la classe affaires estimé entre 20 et 30 000 euros, mais aussi des chariots d'hôtesse de l'air, des indications lumineuses dans la cabine et même la lunette des toilettes. Des lots parfois insolites qui font rêver les passionnés d'aviation pour Marc Labarbe, le commissaire priseur. Il constate que des acheteurs d'une 50aine de pays se sont déjà inscrits pour cette vente.
La magie, c'est que la 380 va disparaître. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'un petit souvenir. C'est une nostalgie de la 380. Un petit quelque chose qui rappelle qu'on y est passé, où on y a travaillé dessus, où on est passé dedans.
Morgan travaille dans le groupe Airbus et se définit comme une aficionado de la 380. Ce qui lui plaît, ce sont les éléments de cabine.
J'aimerais bien récupérer un des petits chariots que j'imagine très bien comme porte-document à la maison. Pour moi, il est synonyme de long courrier, de confort. Et c'est personnellement l'avion que j'ai pris quand je suis partie en expatriation aux États-Unis. Donc on a tous une petite histoire avec la 380.
Pourquoi ne pas s'offrir aussi des appliques de première classe ou la tenue de pilote d'essai de Claude Lelay, le premier pilote du gros porteur? Le produit de la vente sera reversé à la fondation Airbus pour financer des projets humanitaires. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Et une autre partie de la somme sera reversée à l'association Héritage qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine aéronautique. Et puis un autre produit un petit peu particulier que vous pouvez vous offrir, éventuellement si vous en avez envie, c'est Elon Musk qui vient de lancer un parfum baptisé Burnt Air, c'est-à-dire poil brûlé.
Ça fait envie.
C'est que l'homme le plus riche de la planète en a vendu 10 000 flacons à 100 $ unité en seulement quelques heures. Ça l'amuse tellement, hein, qu'il s'est renommé vendeur de parfums sur Twitter.
Bon, effectivement, c'est une question d'envie, hein, Alban. Vous avez bien résumé la question.
C'est du grand Elon Musk, quoi.
Merci, Alban Le Prince.
Il est 5h10 et on passe au sport avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour, bonjour à tous.
On débute par du football et cette soirée de rêve hier pour les Marseillais en Ligue des Champions.
Effectivement, puisque les Olympiens se sont imposés 2-0 sur la pelouse portugaise du Sporting. Rapidement réduit à 10 puis à 9, les Lisboètes n'ont rien pu faire face à des Marseillais réalistes. Une sacrée performance hein, puisque l'OM signe la première victoire d'un club français en terre portugaise de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Un succès qui leur permet de remonter à la deuxième place de leur poule. Le milieu de terrain Matteo Guendouzi ne cache pas sa joie.
C'est une très belle chose, mais voilà, c'est pas une fin en soi. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup par la suite pour l'OM au Portugal. En tout cas, on avait à cœur de venir ici et de gagner. Maintenant, tout est relancé dans ce groupe. C'est vraiment de très bon augure et comme je l'ai dit, on est venu avec de la personnalité et on a montré que voilà, même si sur les deux premiers matchs qu'on avait perdus, je pense qu'on aurait mérité mieux. Je pense que si on continue sur cette voie, on va faire vraiment de belles choses.
Une victoire qui permet aux Marseillais de rêver d'une qualification en huitième de finale. Un scénario possible dès la semaine prochaine si l'OM s'impose à Francfort et que dans le même temps, Tottenham remporte son match face au Sporting.
Quels sont les autres résultats dans cette soirée européenne, Dimitri ?
Eh bien, en bref, les Anglais de Liverpool étrient 7-1 les Glasgow Rangers. Victoire des Munichois 4-2 face à Plzen, ce qui leur permet de se qualifier, eux, en huitième de finale. En revanche, dans le même groupe, c'est plus compliqué pour le Barça qui, après leur match nul 3-3 face à l'Inter Milan, voit quasiment toutes leurs chances de qualification disparaître.
Ce soir, Dimitri, après la Ligue des Champions, place aux plus petites compétitions européennes.
Et oui, notamment pour nos clubs français, avec tout d'abord en Ligue Europa, à 18h45, Rennes qui affronte le Dynamo Kiev, Nantes reçoit les Allemands de Fribourg, un match capital pour les Canaries en vue de la suite de la compétition. Puis à 21h, l'AS Monaco se déplace sur la pelouse turque de Trabzonspor. Enfin, on passe à la plus petite des compétitions, la Ligue Europa Conférence, où les Niçois reçoivent les Tchèques du FC Slovako à 21h, dans un stade à huis clos ou presque, puisque 200 enfants ont été autorisés à venir voir le match. Des rencontres que vous pourrez suivre ce soir dans Europe 1 Sport.
On passe au judo avec une bonne nouvelle française, hier au championnat du monde.
Et oui, puisque Roman Dicko, 23 ans, médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo en plus de 78 kilos, est devenu ce mercredi championne du monde senior pour la première fois de sa jeune carrière. De très bon augure, à moins de 2 ans des Jeux de Paris. Ce titre, c'est un nouveau cap, explique-t-elle au micro européen d'Axel May.
Forcément, je passe un cap. On sait très bien qu'une médaille olympique, c'est beaucoup, mais voilà, c'est pas l'or. Donc là, j'aurai mon cadre sur le Walk of Fame de l'INSEP au dojo. J'aurai mon cadre pour être champion du monde et forcément un titre en individuel au monde. C'est quelque chose, une marche au-dessus et je suis vraiment super, super contente.
Et ce n'est pas la seule médaille obtenue par les Bleus hier, puisque dans la même catégorie, la Française Julia Tolofua a décroché le bronze, portant le bilan tricolore à 4 médailles lors de ces mondiaux.
Merci beaucoup Dimitri Vernet, c'était les sports sur Europe 1 à 5h12. On passe aux courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Longchamp et mon pari gagnant sera le 704 Pom Pom Junior. 3 fois à l'arrivée pour autant de tentatives dans la catégorie des handicaps, sa régularité mériterait bien d'être enfin récompensée par une première victoire et force est de reconnaître que cet après-midi, tous les paramètres sont enfin réunis pour qu'il puisse s'imposer. Une condition physique optimale, dit son entraîneur, un parcours et un terrain souple à son entière convenance. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 4, Pom Pom Junior.
Pom Pom Junior. Merci Thierry Léger, vous revenez nous voir dans une demi-heure avec Pom Pom Junior si vous voulez pour vos pronostics du Quintet. 5h13, très bon réveil sur Europe 1. À suivre, l'histoire dingue d'Anissa Haddadi quand une poule sème la panique sur une base militaire. A tout de suite.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Bon réveil, bon jeudi matin, c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
Bon, alors Anissa, j'ai l'impression que vous avez envie de nous faire une blague ce matin. Voir l'histoire d'une poule qui fait paniquer les militaires. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, celle-là. C'est vrai qu'on dirait le début d'une blague, mais c'est pas une blague.
C'est pas une blague.
Bon. L'histoire que je vous raconte ce matin nous emmène en Espagne, à San Climent, en tant que Catalogne, tout près de la Jonquera, sur une base militaire où les officiers ont découvert il y a quelques jours une poule vivante et attachée sur les zones de manœuvre.
Attachée?
Attachée, bichette. Jusque-là, c'est bizarre.
Bah oui.
Mais
oui,
pas c'est inquiétant.
Bizarre, oui. Bon,
pas
c'est inquiétant. Quand même étrange. Ouais.
C'est une poule. On la prend l'armée dans la nature. Ce qui a posé problème et alarmé les militaires, c'est que cette poule, elle était équipée d'une caméra.
Ah. Une poule espion.
Ah. Et une poule espion. Forcément, l'état-major a alerté les forces de l'ordre de Catalogne qui ont bien constaté que la poule portait une caméra et pas que plusieurs détecteurs de mouvement.
Voilà, j'ai un milliard de questions qui m'arrivent tout en même temps. Qu'est-ce que faisait une poule là? Et pourquoi, bien sûr, elle avait une caméra?
Eh bien, l'enquête a été assez vite menée puisque la poule portait, en plus de la caméra et des détecteurs de mouvement, une étiquette avec l'adresse de l'université de Gérone. Alors, le propriétaire de l'animal a été vite retrouvé. Il s'agissait d'un biologiste de l'université catalane. Il leur a assuré avoir les autorisations nécessaires pour effectuer des recherches scientifiques dans ce secteur avec la poule, mais il ne savait pas qu'il avait attaché la poule sur une zone interdite. D'accord. Et sur une base militaire. Parce que vous savez, des fois, les bases militaires, elles sont très, très vastes. Donc, ça comprend des champs, des parties de forêt, etc. Bon. Il était tout simplement en train de réaliser une enquête zoologique sur l'aigle de la région des Alberts.
Bon, alors, je ne vois pas trop le rapport, a priori, entre le fait d'utiliser une poule pour observer des aigles, là.
C'était un appât.
J'espère que vous êtes bien accrochés ce matin, parce que je vais briser tous vos rêves d'enfance. On imagine que la petite poule aurait dû servir de repas à l'aigle sous les yeux des scientifiques, d'où la caméra et les détecteurs de mouvement. Le biologiste et sa petite poule ont été relâchés. Les études scientifiques devraient se poursuivre dans des zones un peu moins risquées et réservées. D'ailleurs, tiens, sachez que ce n'est pas la première fois que cette histoire arrive, puisqu'en février dernier, une poule a été arrêtée alors qu'elle était en train de s'incruster au sein du Pentagone aux États-Unis dans le quartier général de la Défense avec aussi une petite caméra. Donc voilà, donc étude scientifique qui parfois dérape un peu.
Oui,
mais bon, cette petite poule va avoir une vie très éphémère du coup.
Oui,
elle a fait la une de l'actualité.
C'est vrai, au moins elle est passée à la postérité. Merci beaucoup Anissa Haddadi, on vous retrouve juste avant 5h30 pour la météo.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
5h17 sur Europe 1, les titres de ce jeudi 13 octobre, Alban Leprince.
À quand le retour à la normale dans les stations essence? Sûrement la semaine prochaine, estime Emmanuel Macron, mais dans les faits, cela ne fait qu'empirer. La CGT dépose aujourd'hui un recours en référé contre les réquisitions chez Esso ExxonMobil. Chez Total, Force ouvrière se joint au mouvement. Les grévistes refusent de débloquer les livraisons, conditions posées par la direction pour l'ouverture de négociations salariales. À noter aussi pour mardi prochain, le 18 octobre, la CGT appelle à une grève nationale interprofessionnelle pour les salaires. À une majorité écrasante, l'ONU condamne les annexions illégales de territoires ukrainiens par la Russie. De son côté, Emmanuel Macron appelle Vladimir Poutine à cesser la guerre et revenir à la table des négociations. Il annonce aussi la livraison prochaine de radars et de missiles antiaériens à Kiev, ainsi que 6 nouveaux canons César. Et puis la Corée du Nord a testé hier 2 missiles de croisière longue portée en présence de Kim Jong-un. Objectif, mettre en évidence la capacité nucléaire tactique du pays.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Très bon réveil sur Europe 1, 5h18. On donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Ce sont les initiatives en France.
Et si on mettait plus de verre dans notre quotidien au cœur des villes? Bonjour Hugo Meunier.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec plaisir, vous êtes le fondateur de Merci Raymond, une start-up éco-responsable spécialisée dans la végétalisation des espaces urbains. Merci à vous d'être avec nous sur Europe 1. Merci Raymond existe depuis 2015 avec une idée en tête, reconnecter le citadin avec la nature entre béton et bitume, comme le chante Maxime Le Forestier. Votre objectif, Hugo Meunier, c'est tout simple en fait, c'est ramener des arbres dans la ville?
C'est ça, c'est les faire accepter par les citadins, c'est d'insuffler des politiques, que ce soit privées ou publiques, pour remettre du vivant en milieu urbain. On peut penser que la ville, finalement, n'a plus d'espace, mais nous, on est partisans qu'il y a encore plein d'espace, voire on pourrait même peut-être remodifier la ville, c'est-à-dire de se dire que peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, quand on a construit une place, on aurait pu en faire un jardin.
Ramener des arbres, des plantes dans la ville et à sa périphérie, hein, c'est important de le dire, les vertus sont multiples. C'est aussi une manière de dépolluer le milieu urbain, en plus d'avoir effectivement des espaces plus agréables, des jardins, des parcs.
En effet, alors nous, chez Merci Raymond, on a 3 grands plans d'action. On a ce qu'on appelle le paysage, donc c'est comment remettre du vivant à l'extérieur, sur des toits, dans des rues, dans des cours d'îlots, ou même effectivement sur des nouveaux projets immobiliers qui se font. Donc là, on travaille sur la thématique de la biodiversité, mais aussi des îlots de fraîcheur, donc en termes de plantes. Ensuite, on a la partie agriculture urbaine. Donc là, c'est comment on crée des potagers, en effet sur des toits, mais aussi en périurbain, puisqu'il y a beaucoup de places. Souvent, les villes, elles ont été construites sur des terres agricoles et fertiles. Et donc, proche des villes, on a toujours des bonnes terres. Donc nous, on milite pour préserver ces terres agricoles. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le design végétal, qui est là, est plutôt la partie intérieure, Alors, on ne dit pas dépollution, mais plutôt assainissement de l'air. Mais aujourd'hui, mettre de la nature en ville n'a que des bienfaits, que ce soit création du lien social, que ce soit en effet assainissement de l'air, mais aussi santé physique et mentale, puisqu'en fait, il y a plein d'études qui montrent que commencer une journée en traversant un jardin, en touchant une plante, fait qu'on va passer une meilleure journée. Et d'ailleurs, il y a, si on creuse un petit peu le sujet, les hôpitaux aujourd'hui travaillent sur des ouvertures vers de la nature, vers des jardins, et il y a des chiffres qui montrent que les personnes sont soignées plus rapidement au contact de la nature.
Le contact de la nature, recréer un lien social, on va y venir dans un instant, mais après un été caniculaire comme celui que nous venons de vivre, et vous l'avez évoqué, hein, il est urgent de revégétaliser pour créer ces îlots de fraîcheur dans les villes, autour des villes. Vous pensez que la prise de conscience est réelle aujourd'hui ? La ville de demain n'aura plus rien à voir avec la ville d'aujourd'hui. Ça va dans ce sens-là ? Ça va dans le sens de Merci Raymond, de ce que vous mettez en place ?
Complètement. Alors nous, en fait, on se rend compte que, alors par rapport à 2015, quand j'ai créé Merci Raymond, aujourd'hui, oui, quand on a des projets immobiliers sur lesquels on intervient, le paysagiste, ou en tout cas l'acteur de la nature en ville, va être intégré dès l'amont, donc avec l'architecte, avec l'urbaniste, avec l'élu. Et donc, en fait, la construction d'un projet immobilier va se faire avec le postulat de base qui est, bon, là, on est dans un espace de paysage, de nature. Comment on va faire pour s'adapter à l'espace? Par contre, en effet, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Notamment, on peut penser à toutes ces grandes constructions, ces parcs, toutes ces zones d'activité très minéralisées, toutes ces places, même en plein cœur des villes. Quand on pense à des villes comme Bordeaux ou même quelques places dans Paris, on se dit, c'est inconcevable aujourd'hui de faire une place sans même mettre un arbre. Et donc, on va dire qu'il y a encore un travail d'éducation auprès des élus. Et puis surtout, il y a un vrai sujet, c'est l'entretien. C'est comment, en fait, parce que c'est bien beau d'installer un beau jardin, des beaux arbres, mais si derrière, il n'y a pas d'entretien, malheureusement, ça ne va pas durer dans le temps. Et donc, en fait, c'est ce duo entretien-esthétique, puisqu'en fait, un des enjeux de la ville, c'est aussi que ce soit beau, puisque il faut que ce soit accepté. Donc, ça passe par des moyens, ça passe par une prise de conscience qui est présente, en effet, mais il faut encore faire ce travail. Et nous, chez Merci Raymond, on croit vraiment aussi à ce qu'on appelle la révolution de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il faut embellir, il faut valoriser ces métiers. Et j'aime bien dire que quand on passe dans une rue et qu'on voit un jardin, on n'a pas idée en amont tout le travail qui est effectué, que ce soit un urbaniste, un élu, ou même peut-être une petite grand-mère de quartier qui s'en occupe de l'entretenir. Et donc, c'est vraiment important de recentrer les choses sur la nature.
Parlons justement de vos projets en 7 ans avec Merci Raymond. Vous avez relevé plusieurs défis. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques-unes de vos réalisations, laquelle vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui?
On peut se dire que Merci Raymond, finalement, c'est un concept de bobo, intramuros, de CSP+, mais pas du tout. Je pense que la nature en ville, finalement, doit être à portée de tous. Et donc, un très beau projet sur lequel on est très fiers, c'est un projet à Grigny, à la Grande Borne, dans une cité qui est assez difficile et dans lequel finalement on intervient depuis 2016 avec l'aide effectivement de la ville, mais aussi de l'État, l'ANRU, qui nous soutient sur ce projet-là. On a créé toute une dynamique avec les habitants, de création de jardins partagés, et ce, en fait, depuis maintenant 2016, donc ça va faire 6 ans qu'on y intervient. Projet qu'on a dupliqué et qu'on a pu essaimer dans d'autres territoires, que ce soit à Paris, mais aussi à Marseille, puisqu'on a ouvert une antenne à Marseille et également à Bordeaux.
Reconnecter les gens avec la nature et reconnecter les gens entre eux aussi, hein, on l'a évoqué, mais c'est l'une des ambitions de Merci Raymond. Avec des ateliers, ça passe aussi par là d'ailleurs.
Complètement, exactement. Il y a tout un enjeu de pédagogie. Alors c'est vrai que la nature aussi, ça concerne plein de personnes. Nous, on travaille avec les enfants dans des cours d'école. On parlait tout à l'heure des îlots de fraîcheur. Recréer des cours oasis, c'est un vrai enjeu pour les villes. Pourquoi pas impliquer les enfants sur l'entretien? On pense aussi aux personnes âgées. Nous, on intervient par exemple avec les résidences de certaines villes, notamment la ville de Paris, où on a une quinzaine de résidences seniors qu'on autogère. Et donc, on travaille avec les personnes âgées. On travaille aussi avec des hôpitaux, des personnes aussi qui sont en soins. Et donc, en fait, on peut même aller plus loin. Se dire que demain au bureau, chacun passe une heure de son temps pour arroser les plantes devant les bureaux ou même sur une terrasse. Et l'idée, c'est aussi d'insuffler en fait une dynamique de jardinage global, puisqu'en fait, je reviens à l'entretien. Si on n'entretient pas les plantes, malheureusement, elles vont pas tenir. Et aujourd'hui, les collectivités manquent de fonds pour financer cette nature. Donc, quelque part, si on veut plus de nature, il faut qu'on s'implique tous à son échelle.
Merci beaucoup, Hugo Meunier, d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1 aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Merci Raymond, entreprise responsable spécialisée dans la végétalisation urbaine. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Europe Matin. À
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une de l'actualité, la CGT engage le bras de fer avec le gouvernement. Alors que les premières réquisitions sont tombées, le syndicat dépose un référé. Il appelle à la grève générale. Nous serons au dépôt de carburant de Port-Jérôme, près du Havre, où quatre salariés grévistes ont reçu l'ordre de reprendre le travail. Les expéditions de carburant à destination de la région parisienne ont repris dans la nuit. En Loire-Atlantique, le blocage de la raffinerie Total Énergie de Donges se poursuit, mais il n'empêche pas les Bretons de rouler pour l'instant. Et puis dans ce journal, Emmanuel Macron promet de nouvelles armes à l'Ukraine. Il tend la main à Moscou, il demande à Vladimir Poutine de revenir à la table des négociations. Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'essence va continuer de couler au compte-gouttes. Une éclaircie tout de même en Ile-de-France, où près d'une station sur deux est à sec. Les premières livraisons de carburant devraient reprendre. Les camions-citernes ont pu quitter le dépôt de Port-Jérôme, près du Havre. Le site du groupe Esso ExxonMobil alimente toute la région parisienne. Quatre salariés ont été réquisitionnés. Ils ont donc ouvert le robinet au grand désarroi de leurs collègues grévistes. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Guillaume Dominguez.
Sur le piquet de grève, l'annonce des réquisitions et la remise au travail de certains opérateurs du dépôt ont mis un coup au moral des troupes. Pour Gildas, jeune salarié de 25 ans, ces mesures retirent aux grévistes leur seul moyen de pression.
On va être obligé du coup de rouvrir les expéditions et du coup de re-remplir les stations. Et du coup, le moyen de pression qu'on a de faire grève, il est inutile maintenant. Le mouvement, au final, on le casse d'une certaine façon. Même si nous, on a toujours la volonté d'être gréviste, on va être obligé de refaire notre boulot à 100%.
Une amertume que comprend Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Il s'est rendu sur le piquet de grève hier soir. Le patron du syndicat en a profité pour lancer un appel à la mobilisation.
Je comprends qu'on puisse avoir un moment de doute. Ce qu'il faut leur montrer, c'est qu'on a besoin d'être plus nombreux à agir pour que ces réquisitions et cette remise en cause du droit de grève ne soient pas effectives. Il y a besoin qu'il y ait plus de monde encore dans la rue. Et ce qui se passe chez Exxon et chez Total nous incite à en faire encore plus. Il y a beaucoup de salariés qui sont en grève et d'autres qui sont prêts à partir en grève.
Le carburant a quitté le dépôt de Port-Jérôme la nuit dernière et devrait servir à ravitailler les stations essence d'Île-de-France et du nord-ouest de l'Hexagone.
Un reportage au dépôt Port-Jérôme près du Havre. Guillaume Dominguez, une précision Alexandre, la réquisition du gouvernement vise l'expédition du carburant, mais pas son raffinage. Autrement dit, la transformation du pétrole en essence ou diesel reste bloquée puisque la raffinerie est à l'arrêt.
Bien, l'heure est au déblocage partiel chez Esso. En revanche, la grève continue chez Total. Elle menace de faire tache d'huile.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, s'insurge contre ces réquisitions. Le syndicat va déposer un recours en référé aujourd'hui. Il appelle à la mobilisation générale. Aucune avancée du côté des négociations chez Total Énergie. La direction demande la reprise des livraisons comme préalable à l'ouverture des discussions. Refus des grévistes qui maintiennent donc le blocage des raffineries.
Et pendant ce temps, les automobilistes cherchent toujours désespérément une station ouverte.
Emmanuel Macron l'a assuré hier soir sur France 2, la situation devrait revenir à la normale dans le courant de la semaine prochaine. En attendant, eh bien les files d'attente s'allongent, l'impatience gagne, la colère aussi. Les scènes de bagarres ou d'altercations verbales entre automobilistes inondent les réseaux sociaux.
Un tiers des stations toujours à sec dans le pays, sur un ou plusieurs types de carburant. La situation très variable, en tout cas d'une région à l'autre.
Et on l'a vu en Ile-de-France, où les choses pourraient s'améliorer tout de même. Ça reste très tendu dans les Hauts-de-France. Près d'une station sur deux n'a plus rien dans ses cuves. Situation inverse en Loire-Atlantique, où l'on ne manque pas encore d'essence et pour cause. Si la raffinerie est bloquée, le dépôt de carburant, lui, continue de fonctionner. Reportage Charles Guyard.
Au volant de son camion, Jean-Louis s'apprête à aller remplir sa citerne.
Vous allez où là ?
Je vais charger.
Charger jusqu'à 39 000 litres de carburant à Donges, c'est donc encore possible, alors même que la raffinerie Total est soumise à un blocus depuis hier matin. Seulement voilà, à quelques kilomètres de là, un autre dépôt, lui, fonctionne toujours.
J'ai commencé à 4h30, on est arrivé à 5h et ils nous ont dit qu'on faisait grève chez Total.
Et alors du coup, vous avez fait quoi après ?
J'ai changé de client.
Et là, on est où là ?
À la SFDM.
La SFDM, un site détenu à 95% par l'État. C'est ici, après avoir été refoulé de chez Total, que les camions-citernes ont ainsi convergé massivement, comme l'a constaté Stéphane, qui patiente, lui, depuis près d'une heure et demie au volant, qu'une ligne de ravitaillement se libère.
Habituellement, ils ont fait 3/4 d'heure, 1 heure de queue. On s'attendait plus à 3-4 heures d'attente, parce qu'on sait que quand il y a des événements comme ça, c'est compliqué. Il y a tellement de monde, parce qu'ils ne peuvent plus charger ailleurs, donc ils viennent là où il y a du produit, et comme ici, il y en a, ils viennent. Ça se trouve, demain, on va venir, ils nous diront, il n'y a plus de produit, on ne sait pas.
Et pour l'instant, du carburant, il y en a. La plupart des chauffeurs rencontrés hier après-midi en étaient même à leur deuxième, voire troisième rotation de la journée, et les approvisionnements concernaient des stations situées dans tout l'Ouest.
Ça y
y est, j'ai chargé, je vais livrer.
Donge, Charles Guyard, Europe 1.
Et ce conflit prend sa source dans les résultats exceptionnels enregistrés par Total. Le groupe a versé plus de 2,5 milliards de dividendes à ses actionnaires. Hasard de l'actualité, en plein débat sur le budget à l'Assemblée, les députés ont adopté cette nuit une taxe sur les super-profits contre l'avis du gouvernement. L'amendement du Modem prévoit une majoration de 5% de la taxe sur les dividendes des grandes entreprises.
La guerre en Ukraine à 5h35, les Nations Unies condamnent à une large majorité l'annexion de 4 régions ukrainiennes par la Russie.
143 voix pour, 5 contre et 35 abstentions. La Chine et l'Inde ont notamment refusé de se prononcer. La résolution appelle les États à ne pas reconnaître ces annexions et demande le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Le président américain Joe Biden salue un message clair envoyé à Moscou.
Et les Occidentaux se disent déterminés à poursuivre leur livraison d'armes à l'Ukraine.
Un soutien sans faille du G7 et du FMI. Le Royaume-Uni va livrer des missiles de défense antiaérienne. L'Union européenne s'engage à former les militaires ukrainiens. 15 000 soldats seront concernés dans un premier temps. Information confirmée par Emmanuel Macron hier soir sur France 2. La France va, elle aussi, augmenter ses livraisons d'armes. On l'écoute.
Nous avons livré depuis le début de la guerre des équipements, du carburant, des véhicules blindés, beaucoup de missiles pour se protéger et ces fameux canons César. Les Ukrainiens nous ont remerciés à plusieurs reprises parce qu'ils ont été décisifs dans la contre-offensive dans le Donbass. Nous allons continuer. Et donc on travaille en ce moment à la livraison de canons César additionnels. On en a livré 18. On est en train de travailler à la livraison de 6 canons additionnels avec le Danemark. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des canons qu'on a produits qui étaient destinés à l'armée danoise. Et on est en train d'essayer de les produire en parallèle et de les livrer tout de suite aux Ukrainiens. Ce qu'on fait en même temps, et ce qu'on va livrer, ça ne dépend de personne d'autre que de nous, ce sont des radars et des systèmes avec des missiles antiaériens, en particulier pour les protéger des attaques de drones et des attaques de missiles. Et donc ça, c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. Et en parallèle, on livre, mais également nous formons.
Emmanuel Macron, hier soir sur France 2, entretien au cours duquel il a à nouveau tendu la main à Vladimir Poutine. Il doit cesser la guerre et revenir à la table des discussions. La Turquie, justement, propose de jouer les médiateurs dans ce conflit. Le président Erdogan va aborder le sujet avec le chef du Kremlin. Les deux dirigeants doivent se rencontrer aujourd'hui au Kazakhstan.
Ne pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. On a tous entendu cette phrase au moins une fois. C'est ce qu'on appelle la procrastination. Il y a des spécialistes, hein. On en connaît tous, Christophe. On sait en tout cas d'où elle vient, cette procrastination.
Ah oui, une équipe de chercheurs de l'INSERM, a étudié ce phénomène, la procrastination, le fait de remettre toujours à plus tard les choses que l'on pourrait faire dans l'immédiat. Eh bien, les scientifiques ont identifié la zone du cerveau où tout se joue. Yasmine Akatou.
C'est juste derrière votre front qu'une partie de votre cerveau s'active pour répondre à la question « Est-ce que je fais cette corvée maintenant ou est-ce que je la reporte à demain ?» En quelques secondes, le cortex cingulaire antérieur fait un calcul coût-bénéfice. Chez les procrastinateurs, ce calcul est fait d'une certaine manière. Raphaël Lebouc est neurologue et co-auteur de l'étude.
Les procrastinateurs, ils ont tendance à décompter les efforts plus vite qu'ils ne décomptent les récompenses. Quand ils imaginent de repousser une tâche, la tâche leur paraît beaucoup moins pénible à envisager, mais elle n'est pas tellement moins récompensante. Alors qu'une personne qui a tendance à peu ou pas procrastiner, il décompte les récompenses plus vite que les efforts. Imaginez de repousser la tâche dans le temps, ça lui paraîtra tout aussi pénible. Et donc il aura tendance à la faire beaucoup plus vite.
L'étude ne dit pas si l'on est procrastinateur ou si on le devient avec le temps, mais cette découverte sur le mécanisme de procrastination pourrait aider à développer des stratégies pour ne plus reporter des tâches au lendemain.
Voilà, message reçu. Explication Yasmina Katou.
Bon, pas de pilule contre la procrastination jusqu'ici, hein, pas encore. On est à 2 ans, Christophe, de l'ouverture des Jeux de Paris et rien ne va plus au sein du comité olympique français.
Ouais, c'est une crise de gouvernance sans précédent qui secoue le CNOSF, la plus haute instance du sport français. Sa présidente Brigitte Henriquez se met en retrait. Une nouvelle secrétaire générale vient d'être nommée dans un climat loin d'être complètement apaisé, Axel May.
Oui, Brigitte Henriquez fait face à une fronde historique de plusieurs dirigeants de fédération qui jugent trop autoritaire sa gestion du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF, à la tête duquel elle a été élue présidente l'an dernier. Hier, à l'issue d'un conseil d'administration présenté comme crucial, l'ancienne footballeuse est apparue très marquée.
Je suis épuisée par les 15 mois que je viens de vivre. Je ne suis pas en arrêt maladie, je reste présidente. Pour autant, par intermittence, je prendrai le repos qui m'est nécessaire et qui m'est imposé.
Bref, à moins de 2 ans des Jeux de Paris, la présidente du CNOSF reste en place tout en prenant du recul. Et les rivalités demeurent. Brigitte Henriquez vient d'obtenir la révocation de son propre secrétaire général et a déposé plainte contre lui pour violence psychologique. L'ancienne escrimeuse Astrid Guyard est depuis hier sa nouvelle secrétaire générale.
C'est important désormais qu'on bascule vers ces Jeux, notamment vis-à-vis des athlètes. Pour faire en sorte que pour nos athlètes, ce soit bien un avantage d'avoir les Jeux à la maison et pas un poids psychologique.
Des athlètes qui constatent surtout que leurs instances dirigeantes renvoient une image bien loin des valeurs de partage et de respect portées par l'olympisme.
Axel May du service des sports d'Europe 1. Le football, Marseille totalement relancé en Ligue des Champions. L'OM s'impose 3-1 sur la pelouse du Sporting Portugal et remonte du coup à la deuxième place de son groupe.
Merci Christophe Lamarre. Très bon réveil sur Europe 1. Il est 5h40. Les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre. Direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour ce Quintet. Un handicap qui réunira 16 pur sang âgés de 4 à 9 ans sur la distance de 1950 mètres. Et il est légitime d'accorder un très large crédit au numéro 7 et Ecus Vinci, probe en deuxième lors de sa dernière sortie, un quintet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, une performance annonciatrice d'une victoire dès cet après-midi. On lui opposera les numéros 14, London Royal, qui par deux fois viennent prouver lui aussi qu'il avait le niveau d'un tel handicap. 4, Picnic Royal, irrésistible lors de ses deux dernières victoires et dont les limites actuelles restent à déterminer. Et 9, Fayona, dont la dernière fin de course dans un handicap sur l'hippodrome de Paris-Longchamp n'est vraiment pas passée inaperçue. Enfin, les numéros 2, Prince de Montfort, 10, Homodeus, 16, Queen Lady et 11, Kello peuvent, comme beaucoup d'autres, s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 7, 14, 4, 9, 2, 10, 16 et 11.
Et vous retrouvez ces pronostics dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Cet adversaire,
allô Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
À présent, c'est le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Aujourd'hui, une pandémie de grippe oubliée, retour en 1957. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
À l'heure où en France, les cas de Covid repartent cet automne à la hausse, savez-vous qu'il y a 65 ans apparaissait en Chine ce qu'on appellera la grippe asiatique? C'est une pandémie aujourd'hui oubliée. Nous sommes à l'époque en 1957 et ce virus est pris très au sérieux en France.
Oui, cette grippe se répand dans les pays asiatiques avant d'atteindre l'Amérique et l'Europe. En région parisienne, des contrôles sanitaires ont lieu à l'aéroport d'Orly en juin 1957.
Veuillez présenter vos certificats de vaccination, s'il vous plaît.
D'un côté, le médecin et son infirmière, et de l'autre, la passagère.
Les premiers symptômes que vous avez éprouvés, c'est longtemps après l'envol?
Oh, à peu près une heure, docteur. Je ne pouvais pas très bien respirer.
Voulez-vous passer le cytoscope, s'il vous plaît? On dit 33.
33?
Voilà pour le témoignage de cette femme qui arrivait de Bombay en Inde. Les antibiotiques ne peuvent rien pour enrayer cette pandémie. On recommande aux gens de se reposer et d'éviter les rassemblements. Le comédien Francis Blanche a eu la grippe asiatique et il témoigne sur Europe 1.
On n'est jamais entièrement guéri de la grippe asiatique. Il en reste toujours quelque chose. Voilà les gens qui vont être marqués pour la vie maintenant. En tout cas, j'en ai conservé ça, très nettement. Les jambes coupées, les bras coupés, le nez coupé, les oreilles coupées. Enfin, il ne me reste plus grand-chose.
Et chez certaines personnes, la grippe asiatique entraîne des complications pulmonaires.
Francis Blanche, il garde son humour en toutes circonstances. Laure, un vaccin contre ce virus asiatique est mis au point à l'été 1957.
Oui, mais il n'est disponible qu'en petite quantité. Des séances de vaccination collective sont mises en place, par exemple, en octobre 1957, dans la caserne de pompiers de Lyon.
C'est une injection sous-cutanée d'un vaccin préparé par les laboratoires Mérieux à Lyon.
Cette piqûre est la seule ou devez en faire une autre?
On doit en faire une deuxième, soit à 10 jours, soit à 15 jours d'intervalle.
Et à l'époque, on peut aussi aller chercher le vaccin chez le pharmacien, dit ce médecin.
Vous pouvez me donner une ordonnance? Avec cette ordonnance, le pharmacien me donnera du vaccin. Merci.
S'il peut s'en procurer.
Mais les pharmacies sont vides à l'été 57. Seuls les médecins et les infirmiers peuvent alors se faire vacciner. L'épidémie connaît une nouvelle vague à l'automne 1957. La grippe asiatique fera 100 000 morts en France. Elle se termine quelques mois plus tard, en 1958.
Merci Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1.
5h44, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. À suivre ce rapport alarmant du WWF, le Fonds mondial pour la nature, qui nous dit que les populations d'animaux sauvages sont en chute libre dans le monde. Je reçois dans un instant Isabelle Audissier, elle est la présidente d'honneur du WWF France. A tout de suite.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
6h moins le quart, bon réveil avec Europe 1. C'est un rapport en forme d'alerte rouge. Le WWF, Fonds mondial pour la nature, dévoile ce matin son rapport Planète vivante. Il dresse le constat d'une chute très rapide des populations d'animaux sauvages dans le monde. Votre invité Alexandre est la navigatrice et écrivaine Isabelle Autissier et également la présidente d'honneur du WWF France.
Bonjour Isabelle Autissier.
Bonjour.
Avec ce rapport, c'est un cri d'alarme que vous nous adressez ce matin sur Europe 1. Ce rapport que vous publiez, il révèle une chute ou plutôt un effondrement des populations d'animaux vertébrés. Et ce qui frappe dans tout cela, eh bien, c'est la vitesse et l'ampleur du phénomène.
Hélas, tous les deux ans, le WWF publie ce rapport et tous les deux ans, j'allais dire, c'est pire. Là, on en est à la disparition de 69% des vertébrés sauvages sur cette planète, c'est-à-dire presque 70%, en suivant 30 000 espèces. Hein. Donc, c'est vraiment des chiffres extrêmement solides. C'est donc gravissime parce que toutes ces espèces nous aident à vivre. On en a besoin. Elles ne sont pas juste là pour le décor. On fait partie de la vie sur cette planète. On a besoin de la vie autour de nous.
Les populations d'animaux vertébrés reculent donc à cette vitesse terrifiante à la surface du globe. Est-ce qu'on doit parler d'une extinction de masse ?
Bah oui, on en prend le chemin. En tout cas, c'est ce que disent les scientifiques. Il y en a eu 5 dans l'histoire de la planète. Donc 5 fois, 95% de la vie a été rayée de la surface. Et puis, les 5% restants, après pas mal de milliers ou de millions d'années, sont repartis. On n'a pas du tout envie de vivre ça parce qu'on serait vraisemblablement parti des 95% qui disparaîtraient. Donc, globalement, on sait quand même ce qu'il faut faire. C'est aussi, j'allais dire quelque part, un peu la bonne nouvelle. On sait pourquoi ça disparaît. Essentiellement, à cause de l'agriculture industrielle qui va couper la forêt, assécher des terres humides pour planter des cultures de rente. Hein, pour
donc réduire les espaces sauvages.
Voilà, qui réduit les espaces sauvages. Mais ces espaces sauvages sont aussi réduits par l'industrialisation, par l'extinction des villes, par tout un tas de phénomènes. On a bien sûr le dérèglement climatique qui est en train de prendre malheureusement une place très forte parce que les espèces n'arrivent pas à s'adapter suffisamment vite. Leur poids, oui. Leurs espaces sont considérablement modifiés. Quand il y a des drames comme les méga-feux, les feux gigantesques, évidemment, c'est des milliards d'animaux qui disparaissent. Donc ça, c'est aussi une raison. Et puis, toujours la pollution. Je pense évidemment, moi particulièrement, à la pollution océanique ou plastique, vraiment d'empoisonner, en fait, hein, la nature des dans les océans.
Ça, c'est un point très important de votre rapport. Effectivement, le réchauffement climatique est en passe de devenir la première cause de disparition des animaux sauvages. Il faut donc, dites-vous, absolument parvenir à limiter le réchauffement à 1,5 degré, faute de quoi, eh bien, les conséquences seront incontrôlables.
Oui, elles seront incontrôlables pour la nature. Et pour nous, à tous les niveaux, donc c'est même plus un cri d'alarme, c'est une espèce de forme de supplication. Réveillez-vous, réveillons-nous et agissons vraiment, pas des mesurettes de ceci, cela. On est vraiment aujourd'hui en face d'une responsabilité historique de l'espèce humaine pour que nous continuions à vivre dans des conditions, je dirais, décentes, normales sur cette planète. Il faut absolument limiter, donc être sobre en énergie et puis aller vers les renouvelables. Sont déjà deux choses indispensables à faire.
Je vois les chiffres qui sont très préoccupants hein, quand on balaye votre rapport. Effondrement des populations d'éléphants d'Afrique. En mer, effondrement des requins qui jouent un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire. Les coraux, qui sont bien des animaux, la moitié d'entre eux ont déjà disparu dans les mers chaudes, Isabelle Autissier.
Oui, et si on s'arrête 5 minutes sur le corail c'est aussi le milieu le plus productif de l'océan dans lequel vivent des millions, des milliards de poissons qui nourrissent les populations humaines. Donc on voit tout de suite la chaîne entre les deux. Alors juste une ou deux petites bonnes nouvelles quand même, c'est que quand on veut, on peut. Je prends il y a 2-3 exemples comme le gorille des montagnes, comme le tigre au Népal, comme le lynx même en Europe, où quand on fait ce qu'il faut, quand on leur relaisse un petit peu d'espace, quand on les protège, qu'on empêche le braconnage, ces espèces qui n'ont pas totalement disparu reviennent, se réimplantent et renaissent. Donc ça, c'est je dirais, le bon signal que nous envoie la nature. On peut faire face à cette extinction.
Exactement ce que vous nous dites, en réalité, c'est que nous ne sommes pas condamnés à l'impuissance et vous ne vous arrêtez pas à ce constat, Isabelle Autissier, avec le WWF. Vous lancez ce matin un appel, c'est un appel solennel au gouvernement à agir d'urgence contre la disparition des animaux, contre cette chute rapide de la biodiversité. Que demandez-vous concrètement ?
Oh, il y a tellement 1000 choses à faire. J'ai donné une ou deux pistes tout à l'heure pour lutter contre le dérèglement climatique. Mais pour protéger la nature, d'abord, rien qu'en France, il y a des milliards de subventions qui sont des subventions néfastes à la nature. Aujourd'hui, vous allez payer plus cher de taxes si vous avez un espace non bâti dans lequel il y aura peut-être des insectes, des oiseaux, que si vous le bâtissez. Par exemple, j'appelle le gouvernement à faire la chasse à tout ce qui est subvention, donc notre argent, qui est nocif pour la nature. Par exemple, ça me paraîtrait une chose extrêmement importante à faire.
L'objectif, dites-vous, hein, c'est de parvenir à zéro perte nette de nature à l'horizon 2030. C'est un appel aussi que vous accompagnez d'une pétition hein, qu'on trouve sur votre site www.fr. C'est donc aussi un appel à nous tous, en tant que citoyens, que vous lancez.
Oui, ben vous savez ce qu'on dit classiquement. Hein, on a de notre jeu deux cartes, là, la carte de crédit, hein, notre consommation, donc être raisonnable en termes de consommation, favoriser par exemple le bio qui détruit moins la nature, des choses comme ça. Et puis on a notre carte d'électeur, hein, c'est-à-dire notre pouvoir, pas seulement de voter, mais aussi de nous associer, de soutenir le WWF, c'est une façon, ou d'autres organisations si vous voulez. Mais voilà, je pense que notre voix compte et je crois que c'est notre responsabilité pour les générations futures comme pour la nôtre, de maintenant nous engager vraiment dans l'action.
Voilà, c'est un appel que vous lancez en amont de la COP15, hein, conférence de l'ONU sur la biodiversité qui se tiendra en décembre à Montréal, au Québec. Merci Isabelle Autissier. Je rappelle que vous êtes la présidente d'honneur du WWF France, section française du Fonds mondial pour la nature. Merci à vous.
Merci, bonne journée.
Europe Matin, 5h51, les titres de ce jeudi 13 octobre sur Europe. Alban Le Prince.
Les premières réquisitions sont tombées chez SO ExxonMobil en Normandie. Objectif, ravitailler les stations-service franciliennes à sec. La CGT, qui dénonce une entrave au droit de grève, déposera tout à l'heure en référé, annonce de Philippe Martinez, son secrétaire général. Les prochaines réquisitions concerneront le personnel du dépôt total de Flandre, près de Dunkerque. C'est ce que fait savoir Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, alors que chez Total, la situation empire, Force ouvrière se joint au mouvement et les grévistes refusent de débloquer les livraisons. Le secteur de l'électricité s'y met aussi. 4 centrales nucléaires débrayent pour demander des augmentations. Une cinquième se met en grève aujourd'hui. Celle de Gravelines dans le nord, la plus puissante d'Europe de l'Ouest, ce qui pourrait provoquer des coupures dans les entreprises. Du foot, et cela faisait 11 ans que ça n'était pas arrivé. L'OM qui gagne à l'extérieur en Ligue des Champions. Eh bien hier, Marseille a relevé le défi en battant le Sporting Portugal, résultat 2-0.
Europe Matin.
5h52, un très bon moyen de se réveiller en douceur. Tiens, c'est le moment de vous conseiller un livre et un spectacle.
Pour le spectacle, on va retrouver dans un instant Marie Jiquel.
D'abord, bien sûr, pas un jour sans livre. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
Alors Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un livre un peu particulier.
Oui, un livre de Philippe Jaénada, sans preuve et sans aveu, chez Mialet Barreau. Rien à voir avec son œuvre habituelle. Philippe Jaénada, c'est un de mes héros littéraires, grand écrivain spécialisé depuis quelques livres dans les faits divers au long cours. Il s'empare d'une vieille affaire, comme dans La Serpe ou Au printemps des monstres, et il retourne tout. Il fouille les archives, il retrouve éventuellement des témoins, il reprend l'enquête.
Alors, il fait la même chose dans celui-ci ?
Pas tout à fait. Le truc avec Jaénada, c'est qu'il est extrêmement sympathique et abordable. Et donc, il passe sa vie à écouter des gens qui ont une histoire incroyable pour lui. Et tu sais que mon grand-père, etc. Et ma tante. Et si je te raconte ce qui est arrivé à un copain de mon cousin, etc. etc. Il a l'habitude. Lors de la sortie de son dernier livre, Au printemps des monstres, il se rend à une rencontre dans une librairie au Cap Ferret, La Routine. Mais le libraire lui dit « Il faut absolument que tu rencontres mon ami Alain. Il est dans une mouise. Pas possible. Toi seul peux l'aider. » Bon, Philippe accepte, ils dînent ensemble. Le Alain en question vient effectivement d'être condamné pour le meurtre de sa tante 17 ans plus tôt. Il a épuisé tous les recours, il part en prison la semaine d'après. Jaénada écoute et il trouve cet Alain Lapris très sympathique d'abord, surtout il le croit. Mais bon, il ne connaît pas le dossier dans les détails. Et puis, Jaénada se méfie de lui-même. C'est pas parce qu'il trouve quelqu'un sympathique que ça en fait un innocent. Mais tout de même, quelque chose grince dans cette affaire. Alors, il met les mains dedans et il en ressort taché de multiples erreurs, approximations et raccourcis en tout genre qui ont quand même mené à l'incarcération d'Alain Lapris.
C'est son nom. Il a été jugé, condamné. C'est la vérité judiciaire.
Exactement. Et les recours sont épuisés, mais Philippe Jaénada nous raconte et plonge avec nous dans le dossier d'instruction. Et franchement, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître au moins des manquements. C'était en 2004, mercredi 17 mars, 22h40, à Pompignac, pas loin de Bordeaux. Deux copains voient de la fumée sortir d'une maison. Ils courent, elle est en flammes. Ils entrent, ils voient et sortent une dame qui baigne dans son sang. C'est la propriétaire, il est trop tard. Elle est morte, elle a reçu un coup derrière la tête. Et l'enquête commence et c'est donc Alain Lapris qui sera condamné. Alors je vous laisse lire, mais quand on pose le livre, on est convaincu, surtout si on connaît le sérieux de Jaénada qui ne prend jamais rien à la légère. Par ailleurs, c'est une histoire incroyable sur fond de querelle familiale. Jaénada arrive même parfois à nous faire sourire sans jamais oublier qu'il y a en ce moment un homme sans doute innocent en prison.
sans preuve et sans aveu, chez Miel et Barreau de Philippe Jaénada. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le théâtre à présent, bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Ombline et Alexandre.
Bonjour Marie, alors ce matin un réveil au son du tambour hein, avec ce spectacle que vous nous conseillez. On pourrait appeler ça un cirque rock, ça s'appelle Drum Brothers et c'est au théâtre Bobineau à Paris avant un départ en tournée.
C'est un cirque rock, un cirque moderne, voilà, vous attendez pas à voir des animaux, des clowns blancs. Des...
Imaginez les Daft Punk, mais pas version robot, hein, version caisse claire. Trois frères, les frères Cole, se présentent ainsi sur scène avec surprise et humour. Stéphane Cole, que l'on a entendu, est l'un des comédiens jongleurs.
On a tout un attirail de batteries. On est des hommes tambours, c'est-à-dire qu'on a une batterie sur la tête, on a une batterie sur le torse, des batteries aux mains. On avait même imaginé au pied, mais ça, on l'a pas exploité parce que c'était un peu complexe.
Voilà de quoi donner des idées de costumes pour Halloween. Alors, tous les trois ont grandi avec leur propre passion. L'un des frères pour la batterie, les deux autres pour le jonglage. Et ils se sont dit, eh bien, pourquoi pas ne pas tout réunir sur scène. Cela donne par exemple des rythmes réalisés avec des balles de jonglage maracas et puis d'autres facéties.
C'est un spectacle qui restait très enfantin. C'est qu'est-ce qu'on ferait avec tous ces instruments si on était un enfant et voilà, nous, ce qui nous plaît avant tout, c'est le détournement des choses et ne pas faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire voilà, prendre une guitare, ne pas jouer normalement avec et la retourner et en faire une guitare-batterie, la batterie pareil. Voilà, on a pris des fûts, on les a découpés, on a mis des bretelles et on les a mis sur nous et le corps humain devient instrument.
Alors la famille Cole est pleine de ressources car un quatrième frère se cache en régie. Lui se charge des effets visuels, il y en a beaucoup. Effets de laser, lumière dans les batteries. Un spectacle, vous vous en doutez, énergique et accessible aux enfants. Une fratrie qui va, je pense, donner des vocations. Enfin, pour les oreilles sensibles, on met des petits bouchons. Les comédiens en sont d'ailleurs équipés de bouchons spéciaux.
Voilà, rencontrer les Drum Brothers au Théâtre Bobineau à Paris, c'est jusqu'au 29 octobre. Et ensuite, eh bien, ils enchaînent tambour battant sur une tournée dans toute la France à partir de novembre. Merci beaucoup Marie Jiquel.
Merci Marie.
Bon début de matinée sur Europe 1 aujourd'hui, jeudi 13 octobre, à suivre à la météo le journal de 6h et à 6h40, votre interview éco Alexandre.
Oui, on va se pencher sur le marché de l'immobilier. Les logements anciens n'échappent pas à la flambée des prix, nous apprend le baromètre Guy Hoquet. À 6h40, je reçois son président Stéphane Fritz, on va parler de la ruée sur les maisons, tiens. Et puis on verra aussi dans quelle région ça se passe, on verra également ce que deviennent les passoires thermiques.
Ne manquez pas le pressing, les trois articles à lire dans les journaux du matin.
Et une légende de la pop et du rock, Ombline, pour votre partition.
Le Love Symbol album fête ses 30 ans pile aujourd'hui. Prince dans la partition, dans 20 minutes.
Il est 6h sur Europe 1.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une ce matin, le dialogue social ou les réquisitions. Les deux options d'Emmanuel Macron face à la crise des carburants. La CGT a rejeté cette nuit la proposition de la direction. Les négociations sont au point mort. Dans ce journal, nous partirons près de Toulouse, où un centre d'accueil pour migrants crée la polémique. Le maire dénonce un projet disproportionné pour sa commune. Reportage à suivre. Et puis l'OM a assommé le Sporting Portugal hier soir à Lisbonne. Première victoire en terre portugaise pour un club français en Ligue des Champions. Le journal de 6h, Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Du carburant avant les vacances de la Toussaint. C'est l'engagement d'Emmanuel Macron. Encore 7 à 10 jours de galère jusqu'au retour à la normale. Interview du chef de l'État à la télévision hier soir qui a rappelé son attachement au dialogue social. L'occasion aussi de pointer du doigt la responsabilité de la CGT après plus de 2 semaines de blocage.
Nous y croyons et nous le voulons. Que la CGT permette au pays de fonctionner et que dans une entreprise où un accord majoritaire est signé, elle le respecte. Je suis pour le dialogue social, je suis pour le respect de tous nos droits constitutionnels, je suis pour la négociation, jamais pour le blocage. Comment peuvent le comprendre nos compatriotes et moi quand on parle de tout ça? J'ai surtout une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes qui font des queues au milieu de la nuit pour trouver de l'essence.
Et là, en général, ils disent « on aurait dû anticiper ».
Mais non, mais pardon, c'est faux et c'est trop facile de dire ça. C'est toujours renvoyer la balle, c'est toujours mettre le singe sur l'épaule du gouvernement ou du président.
Vous leur avez fait passer le message, en tout cas. On verra comment il sera reçu.
Mais on ne peut pas se substituer à tout le monde, c'est pas vrai. et ça ne se passera pas comme ça. Par contre, on prend nos responsabilités. Donc je le dis très clairement, si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons. Mais je pense que c'est comme ça qu'on doit faire les choses.
Des réquisitions qui sont déjà actées pour la raffinerie de Port-Jérôme en Seine-Maritime. 4 salariés d'Esso ExxonMobil doivent reprendre le travail pour approvisionner les stations-service franciliennes à sec. Une décision, je cite, scandaleuse pour la CGT qui compte déposer un référé aujourd'hui.
La CGT, le syndicat qui tient tête à la direction de Total Énergie.
Oui, la CGT a rejeté cette nuit le deal de la direction. La reprise des livraisons de carburant comme condition à l'ouverture des négociations ce matin, c'est non. Un tiers des stations-service manque toujours de carburant. Pour compenser, l'État pioche dans ses stocks stratégiques. Barthélémy Philippe, les groupes pétroliers importent aussi du carburant.
Oui, depuis le début de la grève, le volume des importations françaises de carburant raffiné augmente considérablement. Lorsqu'elles fonctionnent normalement, l'activité de nos raffineries suffit à couvrir la consommation nationale d'essence. La France exporte même une partie de sa production. En ce qui concerne le gazole, la moitié de la consommation provient des importations. Mais ces standards ont été totalement bouleversés par les blocages qui touchent 6 des 7 raffineries du pays, comme l'explique l'économiste Philippe Crevel.
On estime qu'aujourd'hui, plus de 50% en fait des carburants sont importés essentiellement de Rotterdam, Amsterdam et Anvers. Les ports qui sont déjà utilisés pour les importations en temps habituel, avec comme conséquence néanmoins, c'est une augmentation des prix, car les distributeurs sont forcés d'acheter donc au prix coûtant.
En bout de chaîne, ce sont bien sûr les automobilistes qui trinquent. Ces derniers jours, la hausse des importations de carburant a entraîné une augmentation de 11 à 14 centimes du prix du litre à la pompe.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1 et même jusqu'à 2,80 euros le litre, tarif constaté dans des stations-service parisiennes. A noter que la CGT appelle à une grève nationale mardi prochain le 18 octobre, un mouvement contre les réquisitions et pour la hausse des salaires.
Et c'est exactement ce que réclame lui aussi le secteur du nucléaire.
Oui, une grève plus discrète qui prend de l'ampleur. 5 centrales nucléaires sont mobilisées. Le site de Gravelines, dans le Nord, rejoint le mouvement ce matin. C'est la plus puissante centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest.
Europe 1, 6h04. Nous sommes maintenant dans la région de Toulouse, où un centre d'accueil pour migrants fait polémique. Un projet acté par l'État contre l'avis de la commune.
Oui, nous partons à Saint-Lys, 9000 habitants au nord de la ville rose, là où un centre de préparation au retour doit ouvrir dans une ancienne maison de retraite. 120 personnes hébergées entre 1 et 3 mois avant leur expulsion du territoire. Le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Péter, a rencontré le maire qui dénonce un projet démesuré face aux équipements de sa commune.
Ça me déplaît énormément, avec toutes les nuisances que ça peut engendrer. Des vols, des agressions, ça inquiète.
Ce centre de préparation au retour, comme beaucoup de Saint-Lysiens, Gérard n'en veut pas. En gros, sur le fronton de la mairie, on peut lire non au projet imposé par l'État. C'est au printemps 2021, sans jamais avoir été concerté, que la ville a découvert qu'il allait voir le jour. Le maire, Serge Deuillet, n'est pas opposé à accueillir ces étrangers déboutés de leur demande d'asile, le temps qu'ils rentrent dans leur pays, mais pas autant.
On est prêt à accueillir une partie, mais pas à ce niveau-là. Ça fait trop de monde, et quand on nous oppose la rentabilité économique, je crois que là, on n'est pas à parler de rentabilité économique. Participer, mais de manière raisonnée.
Lui souhaiterait que son village ne soit pas le seul mis à contribution. Initialement, le centre devait accueillir 160 personnes, puis la préfecture a proposé 120. Mais pour Pierre, le principal problème, c'est que contrairement à un centre de rétention, celui-ci ne sera pas fermé.
Ils pourront rentrer et sortir comme ils voudront. Mais les gens commencent à s'intéresser, à savoir comment ils vont sécuriser leur maison. Pour mettre des caméras, des détecteurs de présence, ça commence. Il y a la folie qui commence à grandir. Saint-Lys n'est pas fait pour ça.
Cathy n'en est pas là, mais elle craint pour la tranquillité de cette petite ville périurbaine.
On a déjà pas mal de petits délinquants qui traînent, donc on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces gens-là. On comprend qu'il faut quand même tendre la main, les aider, mais ça fait un petit peu peur.
Alors une réunion publique doit avoir lieu lundi prochain avec la préfecture et le groupe privé Adoma qui sera en charge de la gestion du centre pour permettre aux habitants d'exprimer leurs inquiétudes. À Saint-Lys, Benjamin Péter, Europe 1.
6h05 sur Europe 1, votre actualité sportive à présent avec un coup de massue, celui infligé par l'OM au Sporting Portugal. Victoire 2-0 pour les Marseillais qui se rapprochent d'une qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Mais oui, face à eux, les Portugais ont craqué. Fin de match à 9 joueurs au lieu de 11 après 2 cartons rouges. Jean-François Pérez, avec cette victoire sur la pelouse de Lisbonne, l'OM signe une performance.
En effet, c'est un match que l'institution OM n'oubliera pas. Jamais le club marseillais ne s'était imposé au Portugal en Coupe d'Europe. Jamais un club français ne l'avait emporté au pays de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Même la légende marseillaise, Basile Boli, présent hier soir à Lisbonne, en est ressorti impressionné.
Là, on a vu une équipe vraiment solide, confiance à elle, bonne organisation et encore Sanchez nous a montré qu'il n'était pas encore fini.
C'est le moins que l'on puisse dire. Le Chilien, 34 ans, s'est battu sur tous les ballons et a inscrit le but du 2-0, servi par le meilleur homme du match, l'artiste marocain Amin Harit, successeur de Dimitri Payet, et grand admirateur de ses coéquipiers chevronnés qui poussent l'OM vers le haut.
On a une équipe avec énormément de joueurs d'expérience, malgré ce que certains ont pu penser après le match de ce week-end face à Ajaccio. Il y a une force de caractère dans cette équipe pour pouvoir retourner les choses et la confiance, bien sûr, qu'elle est présente.
L'OM est ce matin deuxième de sa poule et tout redevient possible. La qualification pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions et pourquoi pas une victoire dimanche dans le classique du foot français face au PSG.
Et on suivra ça avec vous, Jean-François Perret, chef du service des sports d'Europe 1. Et ne manquez pas ce soir, dès 20h, l'interview de Virginie Fulpin. Dès 20h, elle reçoit le président de la Fédération française de handball, Philippe Bana, répondra aux questions d'Europe 1 Sport. Émission où l'on parlera aussi de la Ligue Europa ce soir. Les Turcs de Trabzonspor accueillent Monaco. Rennes affronte le Dynamo Kiev en Pologne. Et Nantes joue contre Fribourg avec une victoire quasi obligatoire pour les Canaris s'ils veulent rester dans la course.
C'était le journal des sports avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Alexandre Omblin, comment ça s'est passé le réveil ce matin? Jeudi, petit point d'étape sur
comme
la
ça,
semaine.
En
comme ça,
bois.
D'un seul coup. Bon, ça n'a peut-être pas été le cas pour tout le monde. Si c'est compliqué, j'ai ce qu'il me faut.
Hello darkness, my old friend.
Ah oui, c'est un réveil. I've come to talk with you again. En douceur, voilà la douce voix de Simon & Garfunkel pour souhaiter un joyeux anniversaire à Paul Simon qui fête ses 81 ans.
Eh bien, bon anniversaire Paul Simon et doux réveil à vous tous sur Europe 1, 6h08. Merci Romain Oquet.
Et vous restez avec nous dans un instant le pressing.
Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez à 6h11 sur Europe 1. Merci pour votre fidélité. On passe les portes du pressing.
Et on a passé en revue les journaux du matin. On a choisi pour vous trois articles et autour de la table, Dimitri Vernet dans un instant. Dimitri, vous allez nous parler de quoi?
Eh bien, d'une nouvelle polémique visant le Paris Saint-Germain. Encore.
Bon, à tout de suite, on commence par vous Alexandre.
Ah, moi je suis tombé ce matin dans Libération sur une carte de France très parlante, la carte des déserts médicaux. Elle nous montre en fait les besoins en médecins généralistes sur tout le territoire. Et alors l'originalité de cette carte, eh bien, c'est qu'elle prend en compte les bassins de vie. C'est intéressant parce que c'est beaucoup plus réaliste en fait que de raisonner par département. C'est vrai qu'au quotidien, dans nos déplacements, on est souvent à cheval sur plusieurs départements. Alors on a un code couleur sur cette carte qui va du gris au rouge écarlate. Gris, ça veut dire qu'on est dans la moyenne des médecins disponibles. La moyenne nationale, c'est 83 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Alors être dans la moyenne, ça veut vraiment pas dire que tout va bien, ça veut juste dire en fait que les habitants de ces régions en gris ne sont pas trop mal lotis par rapport aux autres. Les autres, eh bien, ce sont les bassins de vie en rouge. Et alors là, il y en a beaucoup sur cette carte de France. On voit ainsi apparaître, c'est criant, hein, le manque de médecins par tranche de population. Alors je ne vais pas tout citer, mais juste dans le bassin de vie par exemple de Saint-Martin-de-Crau dans les Bouches-du-Rhône, eh bien, il faudrait augmenter le nombre de généralistes de 1300% pour atteindre la moyenne nationale. Ça veut dire que dans ce bassin de vie, on a un seul médecin disponible quand il en faudrait 14.
Un contre 14.
Voilà, donc c'est dire justement les carences qu'on trouve dans certains bassins de vie en France.
Il ne faut pas qu'il prenne sa retraite ce monsieur.
Mais oui, mais oui. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette carte, c'est que quand ils sont rapportés à la population, les déserts médicaux ne sont pas toujours ceux des campagnes. Si on prend par exemple le grand bassin de vie de Paris, qui inclut Paris donc, mm-hmm. mais aussi une grande partie de la banlieue, là on a un déficit encore en généraliste de 22% par rapport à la moyenne nationale. Et alors, pour redresser la barre, on estime qu'il faudrait deux médecins pour remplacer un partant. Mmh. Évidemment, on en est encore très loin. Alors, il y a quand même des bassins de vie plus chanceux. Je vais en citer qu'un seul. Autour de Lannion, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, eh bien là, on trouve à l'inverse 5% de généralistes en plus par rapport à la moyenne nationale. Vous voyez, c'est donc une carte très parlante. Elle a été réalisée par le géographe Emmanuel Vigneron et vous la trouvez en double page ce matin dans Libération.
Et elle est très instructive, effectivement.
Vous êtes arrêté sur quoi en blitz ce matin ?
Alors, on parle beaucoup de ce rapport inquiétant du WWF. Le nombre d'animaux a chuté de 70% depuis 1970. La navigatrice et présidente d'honneur du WWF France, Isabelle Autissier, était votre invitée il y a une demi-heure, Alexandre, une interview, je précise, qu'on peut retrouver en podcast et en replay. Eh bien, j'ai envie justement de vous parler d'un animal en particulier. Il avait disparu pendant 4 siècles au Royaume-Uni et il a été réintroduit en 2009. Passion Castor
Patio
ce matin.
Castor.
Oui, le magazine Society nous emmène en balade à la tombée de la nuit dans la forêt de Knapdale, dans le sud-ouest de l'Écosse.
Faut le dire avec les dents, avec les dents de Castor. C'est plus facile à prononcer.
Voilà. Cet espace où on voit, je cite, le petit sous-marin de fourrure qui mène une vie tranquille. Il mène sa vie de castor tout en incarnant un rôle majeur dans la préservation de la biodiversité et la préservation des zones humides. Car figurez-vous, il pleut moins. De moins en moins au Royaume-Uni. Eh oui, il pleut de moins en moins, en particulier en Écosse. Et le castor est l'une des solutions trouvées pour tenter de résoudre ce problème. Jadis chassé pour ses os, sa chair, sa fourrure et même ses glandes utilisées dans l'industrie du parfum, 8 familles de castors ont été réintroduites. Alors qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Ça ne vous a pas échappé. Cet animal à grands dents est un formidable bûcheron. En construisant ses fameux barrages, il crée des zones humides et c'est capital. Depuis que la sécheresse et les feux de forêt se multiplient, autant vous dire qu'en Écosse et dans tout le Royaume-Uni d'ailleurs, on n'est pas bien préparé à l'absence de pluie. Les castors fabriquent donc des réservoirs naturels et renouvellent aussi les réserves d'eau souterraines. Le magazine raconte l'histoire d'un fermier en Angleterre. Des castors ont reconnecté l'une de ses parcelles avec un cours d'eau. Eh ben, cette parcelle a pu résister à la sécheresse. On aime les voir nager. On l'aime tout court maintenant, le castor. Cher castor, c'est un article dans le nouveau numéro de Society qui sort aujourd'hui. Et on embrasse nos amis britanniques qui voient de plus en plus le soleil et qui nous écoutent également.
Vous embrassez les castors.
Merci. Et j'embrasse les castors.
Pompiers de la sécheresse.
Bah oui, contre le castor, contre la sécheresse. Pensez-y.
Dimitri, je crois que vous avez un nouvel épisode de UPSJ à nous proposer.
Exactement. Et plus précisément, c'est une enquête Mediapart ce matin. Je vous lis son titre, « Révélation sur l'armée numérique du Paris Saint-Germain ». Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière le terme « armée numérique » En fait, pour vous expliquer, le club parisien aurait utilisé des faux comptes sur les réseaux sociaux gérés par un sous-traitant pour décrédibiliser des médias hostiles au club, ou encore plus surprenant, pour nuire à des personnalités dont ses propres joueurs. Pour vous donner un petit peu quelques exemples, cette enquête révèle que ces faux comptes ciblaient notamment le supporter giflé par Neymar après la défaite du PSG en finale de la Coupe de France 2019, en divulguant son identité et en tentant de le faire passer pour un délinquant. Du côté des joueurs, Kylian Mbappé a lui aussi été la cible de cette armée numérique, notamment lors de ses envies de départ. Alors pour le moment, le PSG dément ces révélations. Mais alors qu'on sait, bien sûr, les nouvelles envies de départ de Kylian Mbappé, si les éléments publiés s'avèrent vrais, selon une avocate spécialisée dans le droit du sport, le numéro 7 parisien pourrait alors se libérer de son contrat avec le club de la capitale.
Qu'on comprenne bien, c'est des faux comptes créés par le PSG pour nuire au PSG.
Voilà, vous avez compris tout le point d'interrogation un petit peu bizarre sur cette question. Bref, Mbappé contrarié, le PSG une nouvelle fois visé. Autant vous dire qu'en ce moment, à chaque jour suffit sa peine pour le Paris Saint-Germain. Oui. Révélation sur l'armée numérique du Paris Saint-Germain, c'est à lire dans les colonnes de Mediapart ce matin.
Bon, si maintenant on s'attaque à ses propres joueurs.
Ah oui, là c'est...
Bon, voilà, ok. Merci beaucoup Dimitri, merci Alexandre. C'était le Pressing et on se retrouve dans un instant avec la partition de Prince sur Europe 1.
Merci Alban Le Prince. Alors ça, c'était pour l'actu et 10 jours. Nous y sommes cette fois-ci à la partition Omblin. 6h20 et de quoi se réveiller en beauté. On rembobine cette fois-ci, il y a 30 ans. 13 octobre 1992 donc. C'est la sortie d'un nouvel album de Prince. Mais le nom Prince disparaît de la pochette. On trouve à la place un symbole évidemment imprononçable.
Un pictogramme. Masculin, féminin. Vous voyez ça, Alexandre, comme un rond fléché stylisé. Ce disque communément appelé The Love Symbol Album va marquer un virage essentiel dans la carrière du guitariste anticonformiste.
Alors, à peine achevé la tournée de son précédent disque, Diamonds and Pearls, Prince est déjà tourné vers l'avenir.
Oui, son nouvel album est prêt lorsqu'il signe la reconduction de son contrat avec sa maison de disques historique Warner et le seul label qu'il est connu depuis ses débuts quand il avait 18 ans. Et malgré les apparences, rien ne va plus entre la major et son poulain. Le chanteur tolère de moins en moins la pression exercée par Warner, qui semble intéressé uniquement, selon lui, par les chiffres des ventes.
Et la star, qui exigera donc bientôt qu'on ne l'appelle plus par son nom Prince, prend une toute nouvelle direction artistique.
Et pas de demi-mesure avec l'artiste. Soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. Les décisions, c'est lui qui les prend. Et peu importe si ses choix s'éloignent d'une logique commerciale. I'm
Ce Love Symbol album, il est enregistré avec le groupe qui l'accompagne depuis déjà 2 ans.
The New Power Generation, Prince s'imprègne de toutes les tendances musicales du moment. En ce début de décennie 90, les ballades pop au synthétiseur commencent à être passées de mode. Le grunge et la contre-culture menées par Nirvana se sont trouvés un adversaire de taille. Le gangsta rap, le guitariste teinte tout naturellement sa musique de New Jack Swing. Ce nouveau son qui prend racine dans le hip-hop s'imprègne de funk et de musique électronique. Et pour ajouter de la complexité à cette nouvelle œuvre, Prince imagine construire le disque à la manière d'un opéra rock, avec des interludes entre les morceaux qui racontent une histoire d'amour entre une princesse égyptienne et un musicien, des passages qui seront finalement supprimés par manque de place.
C'est donc un album fleuve qui voit le jour à la date du 13 octobre 1992.
Ouais, imaginez donc 18 pistes, c'est un succès en Europe. En revanche, il a du mal à convaincre le public américain, ce qui a le don d'agacer Prince à tel point que devant les caméras de télévision, il va jusqu'à brûler un journal qui a osé le critiquer. La relation avec sa maison de disques va petit à petit se détériorer. Le chanteur décide de changer de nom, il faudra désormais le désigner à l'aide du fameux pictogramme. Les médias le rebaptiseront l'artiste qui s'est fait connaître sous le nom de Prince. You sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. Is when it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of. In other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up with a hug and a kiss. Come here, baby. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, 'cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. Ain't about sex, it's all about love, being in charge of this life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. Prince avec Sexy MF, Sexy Motherfucker ou Sexy Mother... Ow ! Pour la version censurée, le Love Symbol album fête ses 30 ans aujourd'hui.
Merci Omblin pour cette immanquable partition. 6h25 sur Europe 1, très bon réveil après le journal d'Alban Le Prince que vous ne manquerez pas non plus. Rendez-vous avec l'interview Echo. On scrute ce matin les dernières tendances du marché de l'immobilier avec le nouveau baromètre Guy Hockey. On verra quelles sont les régions les plus demandées. On va s'intéresser aussi au prix des maisons, tiens, et au devenir des passoires thermiques avec mon invité Stéphane Fritz à 6h40. Il est le président de Guy Hockey.
Et puis avant 7h, la revue de presse internationale et l'innovation avec Anissa Mbida qui nous parlera de jeux vidéo installés directement sur le tableau de bord de nos voitures. A tout de suite.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une, Emmanuel Macron est-il trop optimiste? Le président parie sur un retour à la normale dans les stations-service dans le courant de la semaine prochaine. Dans les faits, la CGT refuse de débloquer les livraisons. Contre les réquisitions, le syndicat attaque l'État en justice. Ambiance électrique dans les centrales nucléaires également. Mouvement de grève dans 5 d'entre elles, dont la plus puissante d'Europe de l'Ouest, Gravelines dans le Nord. Reportage de Lionel Gougelot, le correspondant d'Europe 1, dans un instant. Le sport français en crise. À moins de 2 ans des Jeux Olympiques, la présidente du comité olympique se met en retrait. Explication à venir avec Axel May du service des sports d'Europe 1. Le journal de 6h30, Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. La mobilisation dans les raffineries va-t-elle gagner les autres secteurs? La CGT appelle à une grève nationale interprofessionnelle pour les salaires mardi prochain, le 18 octobre, alors que son secrétaire général, Philippe Martinez, doit déposer tout à l'heure un recours en référé contre les réquisitions lancées hier chez Esso ExxonMobil pour pouvoir ravitailler les stations-service franciliennes à sec. Chez Total, la situation reste au point mort ce matin, ou alors en pire, Terre. Force ouvrière se joint au mouvement. Les grévistes refusent de débloquer les livraisons. C'est pourtant une condition à l'ouverture des négociations salariales, prévient la direction. Bref, rien ne bouge, surtout dans les stations-service où il faut parfois 3 heures pour faire le plein. Mais l'exécutif n'interviendra pas dans les négociations. C'est ce qu'a fait savoir Emmanuel Macron hier soir, invité de France 2. Jacques Serret, le président, veut respecter le dialogue social.
Oui, si Emmanuel Macron espère un retour à la normale la semaine prochaine...
Il sera dans le courant de la semaine qui vient.
Il ne veut pas porter le chapeau des difficultés du moment.
On ne peut pas se substituer à tout le monde, c'est pas vrai.
Renvoyant la balle aux dirigeants de ces entreprises et aux syndicats des salariés.
Que la CGT permette au pays de fonctionner. Je veux bien que nous soyons dans un pays où on pense que tout dépend du président de la République et du gouvernement.
Ça ne dépend pas de vous, ce qui
Mais
se passe.
Nous ne sommes pas, je le dis vraiment, au moment où nous avons la guerre et cette bouscule complète, ce bouleversement du monde. Chacun doit être, si je puis dire, à sa place et prendre toutes ses responsabilités.
Quant aux critiques sur le manque d'anticipation, sur le retard à l'allumage des réquisitions, Emmanuel Macron tente de se défendre en mettant en avant sa volonté de respecter le dialogue social.
C'est juste qu'on aurait pu faire les réquisitions avant.
Mais pardon, non.
Non,
non et non. Parce que c'est trop facile.
Trop
Parce
facile
que vous m'auriez dit à ce moment-là, mais pourquoi vous empêchez le dialogue social de se faire? C'est au dialogue social. Nous y croyons et nous le voulons.
Une espérance présidentielle qui semble pourtant dénuée d'illusions.
Si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons.
Et en attendant que cette nouvelle menace soit mise à exécution, les automobilistes peuvent attendre.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et les prochaines réquisitions concerneront les grévistes du dépôt de Flandre de Total Energy près de Dunkerque. C'est ce qu'assure Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
Une grève donc dans le secteur du carburant, mais aussi, et on en parle moins, dans celui du nucléaire.
Ouais, là aussi les salariés débraillent pour demander des augmentations de salaire. Grève dans la Drôme, en Ardèche, dans l'Ain, en Moselle. Aujourd'hui, la centrale de Gravelines dans le Nord, la plus puissante d'Europe de l'Ouest, se joint au mouvement et gare aux coupures. Le reportage de notre envoyé spécial Europe 1 à Gravelines, Lionel Gougelot.
Et c'est une grève reconductible et illimitée qui risque de retarder la maintenance d'un des 6 réacteurs de la centrale, le réacteur numéro 4. L'opération était prévue à partir de demain pour une durée de 3 mois, mais si les négociations salariales n'aboutissent pas, si la grève perdure, le retard pris dans la maintenance de cette tranche pourrait faire qu'elle ne soit pas relancée à temps, reconnectée au réseau en fin d'année, au début de l'hiver, au moment où les besoins en électricité seront les plus importants. C'est la menace que font donc planer les grévistes. Franck Redondo est le représentant force ouvrière du CSE de la centrale de Gravelines.
Un arrêt de tranche 4 qui est prévu d'être mis sur le réseau entre Noël et Nouvel An. S'il n'y a pas de point de chute, il va manquer de courant sur le réseau français en début d'année prochaine. Après, il faut rassurer les concitoyens. Les citoyens ne seront jamais délestés. Jamais. Les hôpitaux, jamais. Il ne faut pas faire peur aux gens. On ne fera pas peur aux gens. Peut-être qu'il y a des grandes entreprises du CAC 40 qui seront délestées, certes, mais le citoyen, lui, ne risque rien.
Mais selon le syndicaliste, dans un contexte de pénurie énergétique, le gouvernement et EDF se passeraient bien de ces difficultés, même s'il est impossible de prévoir l'impact réel de ce mouvement. La menace semble avoir été entendue par la direction d'EDF, qui a avancé les négociations salariales prévues en novembre à la semaine prochaine. Gravelines, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et j'ajoute que le projet de loi visant à faciliter la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires sera présenté en Conseil des ministres début novembre, annonce hier d'Elisabeth Borne, la première ministre.
La guerre en Ukraine à présent. Emmanuel Macron demande à Vladimir Poutine de revenir à la table des négociations.
Il doit aussi cesser cette guerre et respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, dit le président. Résultat, pour que Kiev puisse se défendre, la France livrera des systèmes et des missiles anti-aériens ainsi que 6 canons César supplémentaires avec le Danemark.
Europe 1, 6h35, près de 70% des animaux sauvages ont disparu entre 1970 et 2018.
Constat hallucinant que l'on fait ce matin en lisant le rapport Planète Vivante du WWF. Il nous apprend donc que chaque groupe d'espèces dans une zone géographique donnée a perdu plus des 2/3 de ses effectifs. C'est alarmant, d'autant plus que les raisons de ces disparitions sont multiples. Louise Salé.
Oui, le WWF en a identifié 5. Tout d'abord, l'usage des terres, la façon dont l'homme s'approprie la nature via la déforestation, l'agriculture intensive ou encore l'extension urbaine. Ensuite, deuxième cause, la chasse, le braconnage, la surpêche. Puis troisième cause, le réchauffement climatique, un facteur de plus en plus important en passe de devenir le principal. Arnaud Goffier est directeur des programmes au WWF.
Les effets provoqués sur les vertébrés, ça peut être le réchauffement climatique qui induit une destruction de leur milieu via des feux de forêt.
comme on l'a vu cet été. Ça peut être des assèchements massifs. Certaines zones humides, le Marais Poitevin en France, connaissent des sécheresses qui sont dramatiques tous les étés maintenant, pour lesquelles les amphibiens, les poissons ne survivent pas. Donc c'est ce genre de choses, l'apparition de nouvelles maladies aussi.
Deux autres causes, enfin, provoquent également le déclin des vertébrés, la pollution et les espèces invasives, ces animaux introduits dans de nouvelles régions par l'homme qui se déplace. L'Amérique du Sud est le continent le plus touché par cette chute du nombre d'animaux sauvages. En Guyane, 95% des tortues luttes ont disparu en 20 ans en raison de prises de pêche accidentelles.
Louis Salé.
Un mot de sport, Alban. À 2 ans des Jeux Olympiques de Paris, rien ne va plus au sein du comité.
Oui, hein, il connaît une crise de gouvernance inédite. Brigitte Henriques, la présidente du CNOSF, très contestée en interne, vient d'annoncer se mettre en retrait. Conséquence, Axel May, une nouvelle secrétaire générale a été nommée pour l'assister.
Oui, Brigitte Henriques fait face à une fronde historique de plusieurs dirigeants de fédération qui jugent trop autoritaire sa gestion du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF, à la tête duquel elle a été élue présidente l'an dernier. Hier, à l'issue d'un conseil d'administration présenté comme crucial, l'ancienne footballeuse est apparue très marquée.
Je suis épuisée par les 15 mois que je viens de vivre. Je ne suis pas en arrêt maladie, je reste présidente. Pour autant, par intermittence, je prendrai le repos qui m'est nécessaire et qui m'est imposé.
Bref, à moins de 2 ans des Jeux de Paris, la présidente du CNOSF reste en place tout en prenant du recul. Et les rivalités demeurent. Brigitte Henriques vient d'obtenir la révocation de son propre secrétaire général et a déposé plainte contre lui pour violence psychologique. L'ancienne escrimeuse Astrid Guyard est depuis hier sa nouvelle secrétaire générale.
C'est important désormais qu'on bascule vers ces Jeux, notamment vis-à-vis des athlètes. Pour faire en sorte que pour nos athlètes, ce soit bien un avantage d'avoir les Jeux à la maison et pas un poids psychologique.
Des athlètes qui constatent surtout que leurs instances dirigeantes renvoient une image bien loin des valeurs de partage et de respect portées par l'olympisme.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
Merci Alban Le Prince, 6h38. Très bon début de journée sur Europe 1. À suivre, la dernière photo du marché de l'immobilier. Focus dans un instant sur le baromètre Guy Hoquet. Les prix des maisons décollent, nous verrons où. Que décident également les propriétaires de passoires thermiques? Réponse avec Stéphane Fritz dans un instant. Il est président de Guy Hoquet Immobilier.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
C'est la dernière photo en date du marché de l'immobilier, particulièrement de l'ancien. Le baromètre Guy Hoquet révèle des prix en forte hausse en France. La demande en maison individuelle est très forte et fait flamber les prix. Votre invité, Alexandre, c'est Stéphane Fritz, président du réseau immobilier Guy Hoquet.
Bonjour Stéphane Fritz.
Bonjour Alexandre.
Première tendance effectivement qu'on observe à la lecture de votre baromètre, c'est une hausse importante. Des prix sur le marché de l'ancien, aucune région n'échappe à ce phénomène.
Alors aujourd'hui, c'est un baromètre qui prend du 1er janvier au 30 septembre.
Donc sur les
9 premiers mois. Et bien évidemment, on constate une augmentation de 7,2% aujourd'hui des prix au total, avec bien évidemment des temps marqués. Alors les villes moyennes principalement, on a principalement le Grand Ouest et aussi l'Est, donc toutes les régions un peu, on va dire, balnéaires. Et un ralentissement en revanche sur les grandes agglomérations et notamment à Paris.
7 biens sur 10 mis en vente depuis le début de l'année. Ce sont des maisons. La hausse des prix est encore plus marquée sur les maisons individuelles, donc.
Oui, plus 10,9% aujourd'hui contre 4% sur les appartements. 7 biens sur 10 aujourd'hui sont des maisons qui sont mises à la vente. Mais c'est une tendance qui était déjà la même l'an dernier. C'est vraiment l'effet Covid. On voit bien que les demandes aujourd'hui des acheteurs ont bien changé. Les gens veulent une pièce en plus, la possibilité de faire du télétravail, une pièce pour chaque enfant, un peu plus de jardin, de balcon. Voilà.
Vous nous dévoilez ce baromètre en exclusivité pour Europe 1, Stéphane Fritz. Si on parle des maisons, on voit les conséquences de la ruée vers l'Ouest qui avait commencé avec la crise du Covid. Le prix des maisons effectivement flambe dans le Grand Ouest en particulier.
En particulier La Rochelle, on le dit avec presque déjà des progressions encore à 2 chiffres, alors que quand même le marché tendait compte tenu des indicateurs que nous avions à se poser un peu. Et on a encore une augmentation de 15% sur les maisons aujourd'hui à La Rochelle.
Est-ce qu'on en trouve à prix raisonnable encore si on parle du Grand Ouest?
Alors, à prix raisonnable, oui, c'est toujours à prix raisonnable à partir du moment où vous êtes acheteur et que vous pouvez acheter.
Et qu'on a les moyens.
C'est ça le sujet. On a, par contre, pénurie d'offres sur tout le PACA, sur tout le Sud-Est.
Sur le Sud-Est. Oui. La loi climat resserre les taux sur les propriétaires de passoires thermiques. Je rappelle qu'à partir du 1er janvier, les logements étiquetés F ou G, donc très mal isolés, seront progressivement exclus de la location. Est-ce qu'on en voit déjà l'impact sur le marché immobilier?
Alors tout de suite, oui, en tout cas, on le constate. On constate, on a mis des marqueurs sur ces sujets-là et c'est l'objet du baromètre. Ce qu'on voit, c'est qu'au national, non, pas réellement. C'est 8% des biens qui sont FG qui sont mis en vente. Au national, c'est à peine 1% de plus que l'an dernier. Donc il n'y a pas vraiment de conséquences. En revanche, sur les villes très tendues, comme c'est le cas de Paris ou la Première Couronne, là, on voit 21% de l'offre sont des classes FG. On fait la corrélation, on fait que, un, déjà, il y a un enjeu parce que les loyers sont beaucoup plus élevés et que l'interdiction de louer les va forcément impacter les propriétaires et deux, le coût des travaux est beaucoup plus élevé à Paris qu'il ne l'est forcément en province. Donc, il y a un vrai impact.
Donc voilà, ça veut dire que plutôt de faire les travaux d'isolation nécessaires pour rentrer dans les clous, beaucoup de propriétaires préfèrent passer la patate chaude en quelque sorte, mettre en vente, quitte à perdre par rapport au prix initial de l'appartement.
Oui, puis on le voit déjà, de toute façon, il y a une hiérarchie dans les classes. Hein, les classes A à C, elles sont vendues en moyenne en France entre 3200 et 3700 euros, prix mètre carré moyen, donc on parle de toute France, donc c'est un vrai indicateur, quand les classes F et G, elles, sont vendues au prix de 2500 euros de mètre carré. Mmh. Donc il y a vraiment un impact, et évidemment, il y aura des négociations sur ces classes-là.
Oui. Elle est de quel ordre, Stéphane Fritz, la décote quand on met en vente une passoire thermique sans réaliser les travaux qui s'imposent?
Alors ça, pour le coup, on pourrait donner des chiffres, mais qui seraient faux. J'ai entendu un peu, ici, là, des chiffres un peu partout. C'est la négociation entre un acheteur et un vendeur, sa capacité à vouloir. Tout à l'heure, vous parliez du bien coup de cœur. C'est tout ça. On dit en moyenne, et encore il va falloir attendre et atterrir et avoir un petit peu d'antériorité sur le sujet, mais on parle de 17 000 euros sur un 50 mètres carrés pour passer d'une classe à une autre. Voilà, c'est toute l'information que j'ai, je ne suis pas certain qu'elle soit bonne.
Vous nous dites que le marché est tendu encore pour ce qui est des appartements dans l'ancien. Avec cet afflux toutefois de passoires énergétiques sur le marché, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'entraînement à la baisse pour ce segment des passoires énergétiques?
On ne constate pas ça encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait ce baromètre, c'est pour mettre des marqueurs parce qu'aujourd'hui, la situation géopolitique, économique, la baisse de pouvoir d'achat des Français, on sait qu'aujourd'hui, le marché va bouger. Aujourd'hui, en l'état, le volume risque de rester sensiblement le même que l'année dernière, peut-être à 100 000 transactions de moins. Donc ça reste un marché extrêmement dynamique, on l'a vu avec des prix qui, malgré tout, continuent d'augmenter ou stagnent dans les grandes agglomérations. Mais on se dit que les mois à venir, aujourd'hui, vont être un peu plus compliqués. Par contre, on ne sait pas dire si ça a un impact sur la location. Mais on imagine bien que ça va avoir un impact sur la location. La location est déjà un marché tendu en France. Si on enlève des biens de la location aujourd'hui, ça va être plus compliqué.
À Paris, on s'est habitué à un prix plancher, on va dire, de 10 000 euros le mètre carré. On en est où, justement? Est-ce qu'on redescend un peu en dessous?
Alors ça stagne à Paris, par contre, de dire qu'on est passé en dessous les 10 000, non. Nous, on n'est pas passé en dessous les 10 000, puisqu'on fait une corrélation entre 15 sites de mise en vente plus nos 32 000 transactions. Et aujourd'hui, on oscille plutôt aux alentours de 12 000. En revanche, à Paris, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment une stagnation. On a un moins 0,1, donc ce n'est pas significatif, mais ça reste une stagnation.
Bon, j'en reviens aux passoires thermiques, pardon, mais du point de vue des acheteurs, est-ce que ça en fait parfois des offres intéressantes? Je veux dire, est-ce que la marge de négociation devient supérieure, du coup? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à saisir? Un effet d'aubaine, quelque part, quand on cherche, surtout pour les primo-acquérants, quand on cherche à acquérir un appartement.
Ça peut être une option. Maintenant, attention, parce que les passoires thermiques, on sait que déjà les DPE ne sont pas sûrs, alors que les diagnostiqueurs ont fait déjà de très très gros efforts sur le DPE, déjà n'est pas complètement sûr. On sait que parfois, la copropriété impacte.
Diagnostic de performance énergétique.
DPE. Ouais. Et la copropriété peut impacter, c'est-à-dire que vous faites les travaux dans votre appartement, mais comme ils n'ont pas été faits dans la copropriété, vous ne pouvez pas monter d'une classe à une autre. Donc attention quand même, c'est là où on va voir justement l'intérêt de l'empathie, de la valeur ajoutée d'un professionnel, d'un intermédiaire, quel qu'il soit, d'un intermédiaire pour pouvoir accompagner dans ce moment difficile pour les acheteurs et les vendeurs. Donc, est-ce qu'il y a des opportunités? MEF.
En quelques mots, Stéphane Fritz, est-ce qu'on s'attend à un atterrissage? Est-ce que cette flambée de l'immobilier ancien va se calmer dans les prochains mois? C'est difficile à dire.
Tous les curseurs aujourd'hui, et depuis le début de l'année, on le dit, tous les curseurs sont aujourd'hui sont pas dans le sens d'un marché dynamique, et pourtant, on constate un marché dynamique encore en 2022. On pense que ça va atterrir et que ça peut se retourner. La situation reste quand même critique, notamment pour les ménages les plus faibles. Donc voilà, on s'attend à, si c'est pas un retournement, au moins un atterrissage en douceur.
Voilà pour ce baromètre Guy Hocquet du marché de l'ancien que vous nous dévoilez en exclusivité ce matin sur Europe 1. Merci à vous, Stéphane Fritz, président du réseau immobilier Guy Hocquet.
C'était l'interview Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
6h48 sur Europe 1.
Europe Matin.
Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre et bonjour à tous.
Alors c'est la dernière astuce des constructeurs automobiles pour nous aider à tuer le temps quand on attend des heures, où ça ? À la station-service. Ils vont proposer des jeux vidéo directement sur le tableau de bord.
Et ça, j'imagine que ça aurait pu intéresser pas mal de monde ces derniers jours, vu les files d'attente monstres devant certaines pompes avec cette pénurie de carburant. Malheureusement, c'est pas pour les voitures à essence, c'est pour les voitures électriques, vous savez, celles pour qui c'est normal d'attendre des heures comme ça à la borne pour faire le plein. Du coup, on va pouvoir passer le temps en s'adonnant aux jeux vidéo. Et c'est Tesla qui est le premier à avoir étrenné l'idée. Son énorme écran central se transforme en console de jeu. On peut y brancher une manette et même utiliser le volant, le vrai volant, et les vraies pédales pour jouer à des jeux de course du genre Mario Kart. Et depuis, Honda et Ford ont suivi, même si leur offre est encore un petit peu timide et limitée. Et désormais, c'est BMW qui se lance en fanfare avec un catalogue d'une centaine de jeux auxquels on pourra jouer en utilisant son téléphone portable là, comme contrôleur.
Bon, vous allez nous rassurer tout de suite, à Nice, on ne peut pas jouer en roulant.
Non, heureusement, il faut quand même être bien garé. Mais figurez-vous qu'il y a encore un an, sur les Tesla, le passager pouvait jouer même sur l'autoroute quand la voiture roulait. Et sur certaines Mercedes, on pouvait aussi regarder des vidéos quand la voiture était en marche. Mais il y a eu plusieurs plaintes et l'option a été désactivée parce que c'est quand même un petit peu dangereux. En tout cas, c'est révélateur de la mutation du système multimédia automobile à l'heure de l'électrique. Pendant longtemps, il servait surtout à nous tenir éveillés quand la voiture roule. C'est pourquoi on mettait l'accent surtout sur la radio ou sur la musique de la voiture. Maintenant, le conducteur peut rester des heures à attendre que sa voiture se charge. Donc on lui propose aussi des films et des séries en streaming, des jeux vidéo, l'accès internet et sur certains concepts, on voit même arriver la visioconférence pour faire ses réunions directement depuis le véhicule.
On va s'installer dans nos voitures.
C'est
finalement.
Ça, c'est la vie dans sa
c'est
voiture.
La vie dans sa voiture.
Avec toutes ces activités disponibles, effectivement, à Nice, c'est une façon aussi de se préparer à la voiture autonome, j'imagine.
C'est exactement ça, parce qu'il va falloir bien nous occuper si on ne conduit plus sa voiture. En tout cas, c'est une révolution culturelle. Depuis toujours, les constructeurs ont cherché à gommer les distractions quand on conduit au nom de la sécurité. Aujourd'hui, ils sont obligés de réintroduire du divertissement pour nous aider à tuer le temps.
Merci beaucoup, Anissé.
Merci, Anissé.
Europe Matin.
6h51 sur Europe 1, c'est le journal permanent. Alban Le Prince.
La grève continue chez Esso ExxonMobil et les premières réquisitions sont tombées. La CGT annonce son intention de déposer un référé aujourd'hui. Total toujours dans l'impasse, Force ouvrière se joint au mouvement et les grévistes refusent de débloquer les livraisons. Une situation très compliquée alors qu'Emmanuel Macron tente de rassurer. Le président prévoit un retour à la normale courant de la semaine prochaine. Le nucléaire débraye aussi. 4 centrales déjà touchées par la grève. Une cinquième aujourd'hui, celle de Gravelines dans le Nord, la plus puissante d'Europe de l'Ouest. La première ministre Elisabeth Borne entame aujourd'hui à Matignon les concertations sur la réforme des retraites. Elle reçoit avec Olivier Dussopt, ministre du Travail, les chefs de groupes parlementaires. Et puis la France livrera des radars et des missiles anti-aériens pour protéger l'Ukraine, ainsi que 6 nouveaux canons César, annonce d'Emmanuel Macron hier soir.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe Matin.
On prend du champ avec votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Van Lerberg.
Bonjour.
Les gros titres de la presse belge ce matin.
L'accord budgétaire conclu par le gouvernement pour l'année 2023-2024, une occasion manquée, titre le journal Echo. Il répond aux urgences du moment, taxation des surprofits des énergéticiens, mais laisse les dossiers structurels en jachère, peut-on lire dans le quotidien. Aucune mesure sur les pensions, ni l'ébauche d'une réforme fiscale. Les déceptions sont nombreuses, dit de son côté le journal Sud Info. Économie sur les soins de santé, rien sur la justice et la plus grande, le blocage des prix de l'énergie, pierre d'achoppement pour le gouvernement, poursuit-il. Un budget sauf qui peut, où le déficit sera modestement réduit, 0,2% du PIB, pointe le quotidien La Libre Belgique. Mais le gouvernement s'en sort une nouvelle fois avec un compromis à la Belge, laissant le moins de monde possible au bord du chemin, conclut le journal L'Avenir.
Nous sommes maintenant au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. Il est question du bon partage de la route ce matin dans les journaux marocains.
Oui, on ne les voit plus en France, mais au Maroc, les charrettes à traction animale sont encore couramment utilisées et la presse s'interroge aujourd'hui. Tirées par un cheval ou un âne, seront-elles bientôt interdites à Casablanca? C'est en tout cas ce que souhaite la maire de la ville. Selon Média 24, elle a déclaré la guerre à ce moyen de transport en menaçant de lui retirer l'autorisation de circuler. Une proposition approuvée par une partie des Casablancais, souligne le magazine Tel Quel. Ils ne supportent plus ces charrettes qui provoquent des accidents et perturbent l'espace public, mais essaient c'est le journal Le 360 qui l'explique, les autorités vont pénaliser des milliers de personnes qui utilisent ces charrettes pour gagner leur vie. Du côté de la municipalité, rien n'est tranché, le conseil de la ville doit encore décider, mais un recensement est déjà annoncé avec peut-être, c'est le souhait du quotidien L'Opinion, des dédommagements ou un programme de réhabilitation pour les propriétaires.
Nous sommes enfin en Uruguay qui se souvient d'une retentissante catastrophe aérienne. Flora Genoux, les unes de la presse uruguayenne.
Eh bien, c'est la tragédie de la cordillère des Andes que le journal El País rebaptise la prouesse. Il y a 50 ans exactement, 45 Uruguayens, des jeunes d'une équipe de rugby amateur, montés à bord d'un avion direction le Chili. L'appareil s'écrasait dans la montagne. La suite, plus de 2 mois de survie. Seuls 16 passagers en sont sortis vivants. Le froid glacial, une avalanche, l'annonce entendue par la radio que les autorités abandonnent les recherches. La chaîne de télévision Télédossé rappelle les conditions extrêmes. Et puis il y a cette décision terrible, complexe, souligne l'Observador, celle de manger le corps des passagers morts pour pouvoir survivre. El País compile des témoignages forts. Tu te demandes pourquoi ces choses-là t'arrivent à toi et il n'y a pas de réponse. Cela fait partie de la vie, dit un rescapé. Un autre revient sur la force du collectif pour s'en sortir. Il conclut, cette histoire, c'est aussi une histoire d'amour.
Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. 6h55 dans un instant, Dimitri Pavlenko sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin, 6h57, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1.
Et voici Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Bonjour.